Vous êtes sur RTL.
20h chaque samedi, vous le savez, bienveillance, info, débat, échange, plaisir, grand plaisir à vous retrouver après deux semaines de bande touche. Émission 100% interactive, filmée sur RTL.fr ou via l'application et à retrouver bien sûr le plus vite possible en total replay avec vos messages sur Twitter, le compte @RTLFoot. Émission avec toute l'actualité la plus chaude de la semaine, mais à deux jours de la désignation du Ballon d'Or, nous recevrons une sommité du journalisme mondial n'ayant pas peur des mots, lui-même ex-patron de l'événement en question, je parle du Ballon d'Or, à son palmarès notamment, mais pas seulement, 13 Ballons d'Or à lui tout seul. Gérard Hernault, très très fier de vous recevoir dans On fait le match. Bonsoir Gérard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Lui aussi, on le connaît et on connaît, il connaît les coulisses de la désignation du Ballon d'Or pour les fameuses luttes de pouvoir, désormais débatteur et chroniqueur dans On fait le match ou RTL Foot d'ailleurs. Xavier Barré, bonsoir.
Salut Christian, bonsoir à tous.
Toujours à mes côtés, la voix ensoleillée dont refait le match, Cindy Colmenares, bonsoir.
Bonsoir, ravi d'être parmi vous.
Le procureur dont fait le match, Gilles Verdès, bonsoir.
Bonsoir.
Et le chef de la rubrique football de RTL, Philippe Sanfourche, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
À 20h, vous retrouverez la brochette de RTL Foot, Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Baptiste Durieux, avec à 21h, Nice-Metz au commentaire, Michael Lefebvre. Match de 17h, Lille-Nantes, 74 minutes de jeu. Le score, un but partout dans un instant. On filera évidemment au stade Pierre-Mauroy. A tout de suite, restez avec nous, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match.
Gémeaux présente les tutos prêts à vivre. Tuto numéro 7.
Prêt à couvrir de cadeaux ceux que vous aimez? Comment faire? Tout d'abord, allez chez Gémeaux. Ça tombe bien, c'est le Black Friday du 24 au 28 novembre. Profitez de moins 20% sur tout le magasin et sur gémeaux.fr. Faites plaisir à toute la famille, les petits comme les grands. Et sincèrement, avec moins 20%, vous pouvez même vous faire un petit cadeau. Après tout, on a bien le droit de se faire plaisir aussi. Gémeaux, le prêt à vivre.
Conditions en magasin et sur gémeaux.fr. Hors bijoux, marques de sport et produits d'entretien.
Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Je vais vous faire la visite d'un lieu exceptionnel. Vous êtes prêts?
Oui!
Voici le salon, avec un magnifique canapé. La cuisine ouverte. Regardez ces tabourets de bar. Ici, l'espace bureau.
Super! Fini le télétravail dans la cuisine.
Les chambres, le jardin, c'est le bonheur.
Ok, on le prend.
Ah non, c'est pas possible. Là, on est sur le site Miliboo.com.
Rendez-vous vite sur Miliboo.com et profitez de la livraison gratuite et de l'expédition en 24 heures.
Miliboo? Meublez-vous.
J'en ai assez de tes mensonges, Hugo.
Je ne t'ai jamais menti, Julie.
Et cette histoire de croisière à seulement 199 €, c'est quoi?
Mais ce sont les journées Black Friday de Costa.
Entre nous, tout est fini, Hugo.
Tu dois le croire, Julie. Réservez votre croisière Costa à partir de 199 € TTC seulement jusqu'au 3 décembre. Conditions sur costacroisière.fr ou en agence de voyage.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec l'invité VIP Gérard Hernault, 13 ballons d'or, record absolu. On n'oublie pas le direct, Lille-Nantes, le direct de la soirée. Samuel Duhamel, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Il reste un quart d'heure à jouer.
Exactement, la 76e minute, toujours un partout entre les deux équipes, entre Lille et Nantes. Yilmaz avait ouvert le score à la 9e minute pour le LOSC. Égalisation de Blas pour Nantes à la 24e minute. Les Canaries qui auraient même pu marquer un deuxième but avec la frappe de Fabio, mais celle-ci a heurté le poteau. Les champions de France toujours en difficulté sur leur terrain en Ligue 1. Il reste un quart d'heure et toujours un partout.
Antenne ouverte, bien sûr, pour ce dernier quart d'heure, plus le temps additionnel. On aura l'occasion de reparler de Lille cette semaine. Qualifiée, pas tout à fait, mais certains supporters l'imaginent déjà pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Gérard Hernault, dans la seconde partie dont on fait le match, on fera une entorse à l'émission habituellement. Il y a des échanges, il y a du débat, il y en aura également. Mais on fera plus qu'une petite minute promo sur un sublime ouvrage que je présente déjà aux caméras dont on refait le match, car on fait le match et filmé, et c'est vraiment un livre magnifique qui s'intitule 10 Faubourg Montmartre, sous votre direction éditoriale, avec l'association des anciens journalistes de l'équipe,
bien le préciser,
aux éditions En Exergue.
Oui.
Et on en parlera avec des détails.
D'accord.
C'est un magnifique document,
d'accord,
vraiment, qui intéressera évidemment les journalistes en activité, les anciens journalistes, mais surtout, le grand public, jeune et moins jeune, avec des documents, des articles et des photos exceptionnelles. On prendra notre temps aux environs de 19h30.
Très bien.
Vous êtes là également pour le Ballon d'Or, on va en parler. Le Ballon d'Or, puisque c'est lundi soir, la désignation du 65e Ballon d'Or. Et à 19h, eh bien, nous évoquerons le baromètre Odo Doxa RTL Kenéo en compagnie de Gaël Sliman pour juger, jauger de l'intérêt du Ballon d'Or et peut-être même désigner avant l'heure l'ensemble du tiercé et en tous les cas le lauréat de ce Ballon d'Or. Mais les débats du soir, madame, messieurs, jusqu'à 19h tout de même, Pochettino est-il le coupable idéal? Zidane est-elle la solution miracle? Zidane, c'est la question que je vais vous poser. Nous allons également parler de Lille. Lille en Ligue des Champions, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est vraiment emballant? Est-ce que Lille n'est pas surcotée pour disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions? Ce n'est pas fait, attention. Marseille éliminé de la Ligue Europe. Est-ce que c'est le signe précurseur d'un avis de tempête sur la Canebière? Et puis on reviendra également, peut-être dans les tirs au but, sur un spécial Lyon-Marseille, match arrêté dimanche dernier. Est-ce qu'on ne nous cacherait pas quelque chose?
Ce sera
l'objet de plusieurs débats.
La bouteille, tout le monde l'a vu. Hein.
Alors, le score est toujours d'un but partout, Samuel Duhamel, mais il y a du neuf.
Exactement, le score est toujours d'un but partout, mais il y a un pénalty en faveur du LOSC après une faute de Fabio dans la surface de réparation. Fabio, d'ailleurs, qui a pris un deuxième carton jaune et qui a été expulsé l'arrière-droit des Canaries. Et donc, dans quelques secondes, Jonathan David va se présenter face à Alban Lafont pour peut-être marquer le deuxième but du LOSC ce soir, le meilleur buteur du championnat, déjà auteur de 10 buts cette saison, Jonathan David, le Canadien. Il est face à Alban Lafont, ça va partir dans quelques secondes, il prend tout son temps, il est en train de marcher, il s'élance et l'arrêt d'Alban Lafont. On en reste donc à un partout alors qu'il reste 10 minutes.
Voilà un bel arrêt d'Alban Lafont, mais voilà encore une illustration supplémentaire sur l'inconstance, l'irrégularité de Lille. On en parlera dans quelques instants. Pochettino, le Paris Saint-Germain est qualifié. Malgré sa défaite à City sur le score de 2 buts à 1, c'était sur l'antenne de RTL. Pochettino, visiblement, messieurs, madame, n'arrive pas toujours à trouver la bonne formule. Et surtout, maintenant, la rumeur enfle. Je tiens à rappeler quand même que cette rumeur, nous l'évoquions dans RTL Foot il y a 5 semaines déjà de cela. C'est-à-dire Zidane à la tête du Paris Saint-Germain. Alors, ou en cours de saison, peut-être, ou à la fin de la saison, pourquoi pas. Ou peut-être jamais, car Zidane a peut-être aussi un autre projet en remplacement de Didier Deschamps, quoi qu'il arrive, après la Coupe du Monde au Qatar. Pochettino doit-il renoncer au Paris Saint-Germain et le plus vite possible, Philippe Sanfourche?
Alors renoncer, c'est certainement pas le terme, parce que si Pochettino devait partir, ce serait pour une autre maison. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il accepte les avances de Manchester United, qui sont réelles, même si le club de Manchester n'a pas contacté le Paris Saint-Germain pour casser le contrat de Pochettino. Il y a une grande partie de poker menteur en ce moment. Pochettino, Leonardo, Nasser El Khelaifi, il y a des intérêts qui ne sont pas tous convergents. Vous parlez des rumeurs. Info ou rumeur, Zinedine Zidane? Parce que c'est là la question aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que vous avez toute une partie de la presse aujourd'hui qui ont des informations qui sont discordantes. Moi, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous confirmer le fait que Zinedine Zidane ait rencontré de manière ouverte, claire, nette et précise les dirigeants du Paris Saint-Germain pour une négociation de son arrivée.
Alors ça, c'est la deuxième partie, Zidane, on va en parler dans un instant.
Mais tout est imbriqué.
Mais tout est imbriqué. Mais est-ce que Pochettino, tiens Gérard Reynaud, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Pochettino, lui, a toujours la main sur cette addition de stars?
Alors moi, je vais vous dire, je vois ça de très loin et de très haut. Mais quand je lis l'équipe d'aujourd'hui, et que j'apprends ou est confirmé le fait que M. Pochettino n'habite toujours pas Paris, qu'il effectue de nombreux allers-retours en Angleterre, où son épouse est toujours demeurée, je me pose des questions, effectivement, sur l'enracinement de M. Pochettino au Paris Saint-Germain.
Alors là, Gérard Reynaud, je me pose moi-même une question.
Et cela s'ajoute
à
un interview qu'il a donné récemment à l'équipe,
oui,
où il disait qu'en fait, il était, lui, l'entraîneur d'une équipe qu'il n'avait pas choisie, avec des méthodes qu'il n'avait pas choisies.
C'est factuel.
Voilà, c'est factuel, mais je pense que ça pose un très 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 gros problème de management pour Pochettino. À mon avis, il est un peu sur un fil aujourd'hui.
Mais le fait de l'enracinement de Pochettino parce qu'il n'a pas un lieu de résidence principale à Paris, ça vous paraît suffisamment?
Peut-être pas, parce que en fait, si Zidane venait à entraîner les Paris Saint-Germain, est-ce qu'il bougerait de là où toute sa famille est actuellement placée? Je ne suis pas certaine non plus. Je pense que c'est pas forcément lié à ça. Je pense que qu'il faut une très grande personnalité au Paris Saint-Germain, et là j'enfonce un peu des portes ouvertes, je le sais, mais on a beau avoir vu plein d'entraîneurs passer au Paris Saint-Germain, ça s'est fini toujours de la même manière.
Donc, il est là le problème. Non. Gilles Verdez, Xavier Barré, Emery, Blanc, Tourelle, on entend toujours la même musique.
Oui, parce que le PSG, c'est compliqué. Alors, juste sur Pochettino, il y a beaucoup de joueurs ou de stars qui, aujourd'hui, n'ont plus envie que leur famille habite à Paris. Ça arrive beaucoup. Paris est moins en vogue qu'à un moment. Il y a aussi des affaires d'imposition. Donc, parfois, on peut rester domicilié ailleurs, notamment en Angleterre. C'est plus avantageux. On peut s'arranger avec ça. Après, pour moi, il n'y a pas que la domiciliation qui pose problème pour Pochettino. Effectivement, je crois que ça ne va pas à Paris. Je crois qu'avec Leonardo, il se rend compte que son influence sera limitée. Et Leonardo, que moi, personnellement, j'adore, devient un problème. C'est-à-dire que les entraîneurs savent que le boss, c'est Leonardo. Donc, vous ne pouvez rien imposer. Si vous avez au-dessus de vous Leonardo et encore au-dessus de Leonardo le Qatar, ça devient très compliqué.
Deux choses.
Donc, il faut des politiques.
Il aime travailler en solitaire, Leonardo, et n'oublions pas que sa deuxième arrivée au Paris Saint-Germain et surtout le fait de Doha et pas forcément du président Nasser Al Khelaïfi, Xavier Barré.
Oui, c'est un peu le cas avec Zidane.
Qui avait géré effectivement l'absence de Leonardo pendant tout le temps où il a été parti suite à la bousculade avec l'arbitre dans les couloirs du parc. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un club extrêmement politique et effectivement, il faut être très politique pour ça. Et c'est à l'opposé de ce qu'est Pochettino quelque part, puisqu'il a fait l'essentiel de sa carrière d'entraîneur en Angleterre. Et on sait qu'en Angleterre, le manager a tous les pouvoirs. Quand on choisit un manager, il s'occupe de tout. Il chapeaute le recrutement. Alors parfois, il y a des équipes de scouts avec lesquelles il faut composer, évidemment. Mais c'est lui qui a la main sur toute la politique sportive. Et ce n'est pas le cas, effectivement, au Paris Saint-Germain, comme dans la plupart d'ailleurs des clubs latins, où il y a toujours un président ou un directeur sportif pour embêter l'entraîneur, ou en tout cas travailler avec lui, ou essayer de travailler avec lui. Mais donc, pour Pochettino, c'est très compliqué d'ouvrir. Vous évoquiez les conditions de travail. On sait que Pochettino est quelqu'un qui impose un gros travail foncier, comme la plupart des entraîneurs, à l'entame de la saison. Cette année, il n'a pas pu avoir les joueurs à l'entame de la saison, et qui plus est, le préparateur physique, c'est son fils. Donc, vous voyez, il y a vraiment des relations très compliquées à l'intérieur du club pour l'entraîneur.
Au-delà de ça, je suis désolé, mais se pose le problème de la compétence de Pochettino. Quel genre d'entraîneur est-ce que c'est ? On pensait que c'était peut-être le futur Mourinho et Guardiola, il ne leur arrive pas aux chaussettes.
Gilles,
donc, il y a un vrai problème Pochettino.
Nous sommes responsables. Quand Emery est arrivé, on a dit c'est formidable, il y a une révolution culturelle. Tourelle, c'était pareil. Pochettino, relisez les coupures de presse ou réécoutez les podcasts.
Pochettino,
c'était formidable. En plus, il connaît la maison, il a joué au Paris Saint-Germain. C'était la solution idoine.
Oui, et on va la même musique avec d'autres clubs, avec la Champions League, avec l'OM. Maintenant, c'est Sampaoli que ça ne va pas. En fait, j'ai l'impression, tendance sur les plateaux à toujours jeter la faute sur l'entraîneur. Pour moi, ce n'est pas forcément le cas. C'est juste peut-être un métier ou un contexte. On sait, ceux qui connaissent bien les Paris Saint-Germain savent que c'est un énorme club, mais qu'il est difficile dans les coulisses,
c'est
particulièrement.
C'est la règle du milieu. Gérard peut témoigner. L'entraîneur, c'est celui qui saute en premier.
Il subit l'autorité et l'influence de quelque chose qui le dépasse. Il l'a avoué, il l'a révélé dans l'équipe il y a une dizaine de jours.
Il est coincé entre la façon de gouverner qui est très politique au Paris Saint-Germain, vous me le confirmez,
mais
Philippe Sansfourche.
Qu'est-ce que vous appelez politique ?
Stratégique. La politique. Alors je vais vous dire, la politique du Qatar, c'est de faire venir les meilleurs et de faire venir, donc de faire jouer ensemble Messi, Neymar et Mbappé. Ça s'appelle une addition de stars.
Oui.
Mais dans une équipe, c'est un sport collectif, le football. Qu'est-ce qu'il faut ? Une addition de stars ou la complémentarité des joueurs ?
Mais c'est pas l'addition, apparemment, si j'ai bien compris, qu'il réclamait. Il réclamait autre chose que cette addition, que des visiteurs.
Après, lorsque Mauricio Pochettino, comme n'importe quel autre entraîneur, accepte de signer au Paris Saint-Germain, il ne découvre pas la Lune. Il connaît le club, son fonctionnement, il sait qu'il y a l'influence du Qatar, il sait qu'il y a l'influence de Leonardo, donc il doit s'adapter à ça. C'est pas 6 mois après, 1 an après qu'il faut jouer les vierges effarouchées en disant « Ah bah moi, je comprends pas, j'avais besoin de monter ma politique, ma façon de faire pour mettre... » C'est pas possible.
Je vais être provocateur, mais si ce n'est pas son choix.
Non, mais Sergio Ramos, Messi, c'est le choix du Qatar.
Donnarumma.
Et après, vous avez Donnarumma, c'est le choix de Leonardo. Après, il y a ses choix à lui. Et il y a une imbrication des trois qui font que c'est très difficile d'avoir une osmose, d'avoir une cohérence sportive.
Oui, c'est un problème d'organisation interne au club, de cohérence de ce club dans son organisation qui ne marche pas alors qu'il est.
Oui, et en fait, on l'a su même par des joueurs par les passés qui sont partis. Cavani, par exemple, ça a exposé pas mal, même si ça n'a pas été trop divulgué dans la presse, les problèmes qu'il peut avoir à l'interne dans ces clubs. Vous parliez tout à l'heure des Messi. Ce n'est certes pas lui qui l'a fait venir, mais il en était ravi aussi que ces joueurs, qu'il puisse l'entraîner. Et pour moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence entre les stars et ceux qui, sur les terrains, ont les mêmes capacités qu'à l'époque. Et Messi, il court peut-être un peu moins, physiquement il est moins au top, donc il y a aussi ce décalage entre ce qui est attendu et ce que les joueurs rendent.
Gilles, avant de vous donner la parole, je vais faire allusion à une époque qu'on a connue avec Gérard Arnault également, le Paris Saint-Germain. Je vais être provocateur, je sais que derrière le transistor ou derrière les tablettes, les auditeurs vont, surtout les supporters du Paris Saint-Germain, les supporters .20 hein, vont bondir. Moi je préfère une association, une complémentarité au milieu du terrain, Luis Fernandez, Jean-Claude Lemou, que Verratti et Paredes.
Ah non.
Il y a déjà Paredes
et Verratti jouent jamais ensemble.
C'était une sorte
un autre football.
D'âme, un autre football et l'âme avant la juxtaposition de stars. Et il y avait un côté, effectivement, il y a un esprit club. Il y avait un esprit club, il y avait un esprit, on se sacrifie.
J'en reviens à cette complémentarité qui prévaut à l'addition de stars.
Mais aussi l'amour du maillot et le sens du sacrifice qui vont de pair avec ce que vous avez dit, qu'on a un peu moins aujourd'hui. L'amour du maillot n'existe plus, donc je suis d'accord avec vous.
Et je vais plus loin, Gérard Arnault, Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Xavier Barré, Philippe Sansfourche, la République, pas la République d'ailleurs, la dictature des joueurs.
Oui, mais sauf que là, c'est la... Alors, excusez-moi, c'est ça, un mauvais jeu de mots. C'est non pas la dictature politique du Qatar, mais c'est la volonté du Qatar. Vous savez, l'émir du Qatar, il se fout totalement que le fond de jeu soit beau. Ce qu'il veut, c'est que Messi, Neymar et Mbappé soient pendant 5 ans dans son équipe. Si Mbappé re-signe est là et que le PSG aligne les trois, pour le Qatar, c'est une vitrine diplomatique formidable.
Avec la victoire et la Ligue des Champions au bout, tout de même.
On a l'impression que moins.
Ah bon ? Exactement. Un choix après ce qui était fait. Par dépit, au bout de 10 ans, on s'aperçoit que cette Ligue des Champions n'a toujours pas été remportée et que, quitte à ne pas la remporter, autant que l'entreprise de spectacle et d'affichage marketing à l'international soit la plus flamboyante possible. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas souhaité voir Kylian Mbappé partir dès cet été. Parce que la logique sportive aurait été celle-là. Je me demande
une chose à la suite de tout ce que vous évoquez, à juste titre. C'est si l'investissement du Qatar ira à Paris, PSG, ira au-delà de la Coupe du Monde au Qatar.
2022. Bonne question.
Alors, le Paris Saint-Germain
Je me demande si d'ores et déjà le Qatar n'a pas renoncé à aller à Paris, à aller au-delà de la Coupe du Monde au Qatar.
Je rappelle que le Qatar a investi dans un nouveau centre d'entraînement à Poissy. Je rappelle que le Qatar souhaite agrandir d'une façon ou d'une autre. C'est pas gagné. Le Parc des Princes. Je rappelle que le Qatar a également une chaîne de télévision en France.
Il est toujours possible de rétro-pédaler.
Par rapport à la chaîne de télévision, après la Coupe du Monde, on ne sait pas trop.
Mais ils ont fait signer les joueurs, notamment Neymar, jusqu'en 2025. Donc il y a quand même une volonté de poursuivre.
Mais est-ce que vous n'avez pas les sentiments
Quelque part, le Paris Saint-Germain, c'est aussi une protection pour le Qatar. On sait que la géopolitique dans cette région est compliquée. On l'a vu avec le blocus qui avait été organisé par les Saoudiens il y a quelques temps, même si c'est desserré depuis. Donc, et on l'a très bien vu dans un autre registre avec Abramovich, avec Chelsea. D'être toujours au premier plan par le biais du football, ça vous protège aussi un peu diplomatiquement.
Après le direct sur Lille-Nantes, où le score est toujours d'un but partout, c'est le temps additionnel. J'allais dire, ce sont les arrêts de jeu à l'ancienne, mon cher Gérard. Les arrêts de jeu, non, maintenant c'est le temps additionnel. Une page de publicité. Et on se posera la question de savoir si alors Zidane est compatible avec le Paris Saint-Germain. A tout de suite.
RTL, on refait le match.
Marie a économisé jusqu'à 50% avec la Black Friday Week Amazon. Et maintenant, elle peut devenir Super Chef Marie. Et grâce à sa nouvelle ménagère de 90 couverts, c'est plus on est de fou, plus on rit chez Marie. Avec la famille, les amis et même Oncle Fred qui adore l'andouillette.
Délicieux.
Eh oui, tout le monde est le bienvenu chez Marie. Lancez les festivités avec la Black Friday Week Amazon du 19 au 29 novembre.
Bientôt les fêtes, une veste impeccable, ça se remarque. Chez 5 à sec, on a pensé à vous. Jusqu'au 4 décembre, le nettoyage de la seconde veste est à moins 50%. 5 à sec, comme neuf, plus longtemps. 5 à sec, 5 à sec. Conditions de l'offre dans les magasins participants. Renault.
Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renault Occasion, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renault Occasion en plus.
Et en ce moment, avec Renew les occasions Renault prêtes à partir, venez chez votre concessionnaire Renault et repartez avec Renault Clio d'occasion, 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus. Renew les occasions Renault, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr.
Pour ton avenir, tu penses à quoi ?
À ma retraite.
Et pour l'avenir de la planète, tu penses à quoi ?
À ma retraite ? En la préparant, j'agis aussi pour l'avenir de tous.
Et si votre épargne retraite devenait aussi responsable que vous ? Pionnier de l'épargne retraite responsable, AJP propose Phare PER, le plan d'épargne retraite qui permet d'investir dans des produits financiers durables, innovants et solidaires. Rencontrez un agent AXA ou retrouvez-nous sur AJP.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé, nous innovons pour mieux vous protéger. AJP.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec notre invité VIP Gérard Hernault, ancien patron de France Football et de l'équipe, pour parler après 19h notamment du Ballon d'Or, mais pas seulement. Cindy Colmenares autour de la table également, Gilles Verdez, Xavier Barré, Philippe Sanfourche. Et la fin du direct, temps additionnel avec le match entre Lille et Nantes sur place, Samuel Duhamel au Stade Pierre-Mauroy.
Ah, il reste vraiment une poignée de secondes, hein. Peut-être moins de 30 secondes, toujours un partout entre les deux équipes. On rappelle que Yilmaz a ouvert le score pour le LOSC, égalisation de Blas pour le FC Nantes et puis surtout Jonathan David qui a raté un pénalty pour Lille à la 80e minute. Il reste une poignée de secondes, Christian.
Score à valider bien sûr dans un court instant et réaction débrief à 20h dans RTL Foot. Zidane est-il compatible, madame, messieurs, avec le Paris Saint-Germain ? Tant sur le plan sportif, tant sur le plan de la gouvernance et j'ai même envie de dire culturellement, Zidane le Marseillais.
Alors oui. J'ai vraiment c'est quelque chose de... Je vais la lancer après parce qu'elle va être difficile à entendre. Mais je vais d'abord commencer par dire que Zidane, pour moi, c'est vraiment l'incarnation de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'on a l'impression que les Qatars, plus qu'est pensé à la Champions League, pense à la Coupe du Monde. Pourquoi ? Zidane, oh, tout le monde le sait, il a quand même soutenu cette Coupe du Monde au Qatar.
Ah, c'est l'ambassadeur, donc, c'est l'un des ambassadeurs
voilà.
de la Coupe du Monde.
Donc il y a déjà cela, et puis surtout, il a d'autres. Il vient des Marseilles, mais bon, ça c'est discours qui tourne un peu. Oui, voilà, ça, en tant que. Ça, c'est un discours qui tombe beaucoup. Moi, je considère qu'un joueur et un entraîneur, c'est pas du tout la même chose. C'est qu'il soit marseillais et entraîneur du PSG, ça pose aucun problème.
Qu'est-ce qui est très franco-français, Philippe Sanfourche ?
D'avoir ce prisme sur le fait qu'il soit connoté marseillais. Et encore une fois, il a jamais joué à Marseille. Il a jamais non plus évoqué la volonté de venir y jouer ou y entraîner. Donc, il est pas plus accolé à Marseille, si ce n'est qu'il y en est, qu'à Paris. Mais la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Zinedine Zidane a envie de venir au Paris Saint-Germain. Pour deux raisons. Déjà, est-ce qu'il pense que la structure même du club lui permet de pouvoir travailler ? Lui qui a travaillé au Real Madrid et qui sait justement que même selon les périodes, il faut y être ou ne pas y être. Donc il est très intelligent et très politique à ce niveau-là. Et puis il y a le timing. Dans un an, il ne vous aura pas échappé que Didier Deschamps sera en fin de contrat avec l'équipe de France et que toutes les planètes sont alignées pour l'arrivée de Zinedine Zidane.
Samuel Duhamel me signale que le match est terminé entre Lille et Nantes, le score un but partout et donc réaction débrief à partir de 20h dans RTL Foot. Gilles Verdez.
L'organisation du PSG, elle pose souvent problème, mais elle est impulsée d'en haut et elle a permis, grâce à Leonardo, des arrivées de joueurs vedettes. Si Zidane arrivait, Leonardo s'en va du jour au lendemain. Zidane ne travaillera jamais avec Leonardo, ils ne sont pas compatible. Leonardo, d'ailleurs, fait tout pour que Zidane ne vienne pas ou que son arrivée soit impossible ou qu'il distille même dans la presse des informations pour que ça sorte et que ça ne se fasse pas. Pour lui, c'est impossible, Leonardo.
Que fait-il pour que Zidane, ne vienne pas et,
Leonardo,
et que dit-il
il fait tout, Leonardo, pour que Zidane ne vienne pas. Ça, je peux vous le dire. Leonardo ne veut sûrement pas travailler avec Zidane, c'est sa fin.
Hier, Leonardo a démenti tout contact avec Zidane réunion avec Zidane.
Christian, vous connaissez suffisamment le foot. Vous imaginez que Leonardo... Oui, j'ai bien rencontré Zidane. Oui. Non, c'est pas possible.
Là où Gilles a tout à fait raison, c'est que il ne vous aura pas échappé que cette information rumeur du rapprochement de Zinedine Zidane avec le Paris Saint-Germain intervient juste au moment, à une semaine d'intervalle, où Mauricio Pochettino est annoncé à Manchester United. Vous n'avez pas l'impression que la concordance de cette info qui arrive comme ça en même temps que l'autre, il n'y a pas une, à qui profite le crime en fait. C'est comme
c'est
ça qu'il faut
pas,
se poser la
question. C'est même pas une info, ce sont des rumeurs et on connaît très bien qu'il y a toujours ces styles de rumeurs là-bas. Moi, je me pose une question, mais j'attendais de la balancer parce que ça va être difficile à entendre. Je sais qu'on apprécie tout, si on aime beaucoup
alors,
Zidane.
Alors une courte question parce qu'il nous faut parler de Lille et de Marseille également.
Ok, mais alors, est-ce que vous connaissez l'épisode Zidane-James? Les joueurs colombiens, ça ne vous a pas échappé non plus qu'au Paris Saint-Germain il y a énormément de joueurs latinos, sud-américains, et il semblerait qu'il ait plus des difficultés, Zidane, à gérer certains joueurs de l'Amérique du Sud, de s'entendre au niveau de... Voilà, il y a aussi ces détails-là, et je sais que le Paris Saint-Germain est quand même un club où il y a des très fortes personnalités. Est-ce qu'il va pouvoir toutes les gérer? Je n'en sais rien.
Moi, je ne suis pas dans la tête de Zidane, mais ce qui a été dit précédemment concernant l'intérêt et que Zidane, Zidane pour l'équipe de France, va dominer très 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 certainement la décision, les décisions qu'il aura à prendre.
Affaire à suivre, comme on dit. Je voudrais quand même qu'on évoque un peu Lille et un peu Marseille, à double détente, s'il vous plaît. Lille n'est pas encore qualifiée, il faudra dans 15 jours ne pas perdre sur le terrain de Wolfsburg. Ce sera le match à suivre sur l'antenne de RTL. L'inconstance de Lille, quand même. Regardez en championnat, c'est un but partout face à Nantes. Et vous trouvez le jeu lillois en ballant en Ligue des Champions.
Ils persévèrent. On les annonçait moribonds, les voilà presque qualifiés, presque premiers en Ligue des Champions.
Vous avez une idole, c'est Jocelyn Gourvenec.
Bah oui, c'est pas raison, le voilà qui qualifie Lille en Ligue des Champions. Lille qui n'a jamais rien fait.
Non,
voilà,
Lille n'est
qualifié.
Lille n'est pas qualifié.
Il est premier de son groupe.
Et le jeu vous emballe?
Mais aucun jeu ne m'emballe. Ce qui compte, c'est les résultats. Il est premier, Christian.
L'inconstance, l'irrégularité du LOSC.
Rappelez que le LOSC était la saison dernière, non pas en Ligue des Champions, mais en Ligue Europa, dans l'ancien format, ce qui n'est pas tout à fait la même compétition. Et cette année, il devait enchaîner avec un groupe qui s'est affaibli par certains départs, qui a dû changer d'entraîneur.
Non, un ou deux et le gardien, donc ça compte pas.
Oui, mais quand même, ils ont dû enchaîner la Ligue des Champions qui réclame une toute autre intensité et continuer en championnat. Donc effectivement en championnat ils sont décrochés, mais en Ligue des Champions ils font le boulot. On va pas se plaindre.
Attendez, mais tous les jouent bas. Non, mais des pertes de ballon comme c'est pas possible, des fautes techniques comme c'est pas possible, et dans la finition il y a personne.
Oui, pourquoi ils gagnent alors?
Les premiers matchs ils devaient pas les gagner.
Salzbourg.
Non mais
championnat autrichien.
Séville. Wolfsburg ils auraient dû gagner le premier match parce qu'ils avaient plutôt pas si mal joué que ça. Donc même contre Séville, finalement, ils gagnent maintenant sur la fin de la poule. Tant
si
mieux.
Ça vous plaît, tant mieux.
Mais c'est pas beau, je suis d'accord, mais au moins
ils vont. Ils font un bon parcours européen.
Je m'incline. L'Olympique de Marseille, est-ce que c'est pas une précurseur d'un avis de tempête quand même? Parce qu'il vous aura pas échappé que Marseille n'a pas gagné un seul match en Ligue Europe cette saison et que c'était l'objectif plus que prioritaire de Sampaoli. Il faisait tourner son effectif en championnat, il ne le faisait pas tourner en Coupe d'Europe.
Ouais, bah ils ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras dès la première journée contre le Lokomotiv Moscou, et puis derrière ils n'ont pas été capables de gagner un match, et ça s'est fini à Galatasaray cette semaine. Mais l'OM, Sampaoli, c'est un entraîneur qui use ses joueurs. Donc là,
il les a usés vite, en trois semaines, ça va vite. Il est arrivé déjà
la saison dernière, faut pas oublier. Et donc, on pensait qu'en refaisant l'effectif, une partie de l'effectif cet été, ça marcherait, mais il y a eu des erreurs de casting évidentes, notamment le Brésilien Gerson.
Le recrutement est nul. Le recrutement était magnifique. Le recrutement
et
de
vous craignez pas que
le président.
Il était pas mal, il était très bien le recrutement. Enfin, je fais partie de ceux qui pensent que le recrutement était bien.
Mais Gerson, il avance pas.
Vous ne craignez pas qu'après Bielsa, l'histoire Sampaoli se termine en autre boudin également?
Mais ça, c'est très injuste. Pour moi, il y a déjà plusieurs facteurs. N'oubliez pas que ces matchs s'est joué 4 jours après l'histoire qu'il y a eu entre l'OM et l'OL, avec Payet qui reçoit une bouteille d'eau.
Il était suspendu, Payet, ça aurait pas changé.
Oui, mais exactement. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand l'OM, c'était déjà un avertissement face à Lens? Ils ont perdu. Et pourquoi ils ont perdu? Parce qu'à chaque fois, ils jouaient trop bas, la relance est très basse, la défense qui était fébrile. On l'a vu également contre les LOSC et en fait, on a vécu championnat la même situation.
Élimination de la Ligue Europa, ils peuvent encore être versés en Conférence League.
On l'espère.
La quatrième division.
Cette élimination de la Ligue Europa
ne vient pas seulement de cette défaite à Galatasaray. Et ça fait les 4 matchs précédents, ils ont raté la marche aussi.
En tout cas, on a bien compris que Sam Payet, je suis désolée, mais c'est lui qui, à chaque fois, face à Lens, face au LOSC, il a sauvé l'équipe, il a marqué etc. Sans et là, voilà.
Et bientôt sans Paoli. 18h58 minutes, les informations de 19h. Et après 19h, le ballon d'or. Pendant une demi-heure, avec notre invité VIP, qui va nous raconter toutes les coulisses. Parce qu'il y a beaucoup, là aussi, il y a beaucoup de stratégies politiques. Gérard Reynaud, vous n'allez pas me démentir, quand même, dans cette histoire du ballon d'or. Il n'y a pas qu'un aspect sportif.
Mais si, bien sûr.
On verra cela après 19h.
RTL, on refait le match.
Gauthier. Alors tu viens d'avoir 60 ans, mon petit Gauthier. Ben t'as bien grandi. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Créer des meubles, c'est original. Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Toujours des meubles, français, design et innovant. Tu iras loin, mon petit Gauthier, tu iras loin.
En novembre, célébrons les 60 ans Gauthier. Jusqu'à moins 25% de réduction sur une sélection de produits anniversaires. Rendez-vous dans votre magasin Gauthier et sur gauthier.fr.
Gauthier. Meublé, vivez.
Aujourd'hui, Lucie a passé 45 minutes sur des podcasts.
Dans son livre, on retrouve de nombreuses
capitalisme, depuis l'arrivée des colons.
Depuis l'Empire romain.
La nébuleuse d'Orient se développe dans
pas mal, lui. Mais elle a surtout passé 2 heures sur Tinder. Chez Free, profitez du plus grand réseau 5G au prix de ce que vous en faites vraiment. Forfait Free 5G illimité à seulement 9,99€ par mois pour les abonnés Freebox Pop. Et c'est sans engagement. En nombre de sites 5G en service, voire Observatoire 5G Arcep, 5G en cours de déploiement en France métropolitaine sur un seul forfait Free et avec mobile 5G. Offre soumise à conditions sur mobile.free.fr.
On fait le match, revient dans 3 minutes, il est 19h. Les informations, Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Tout cas contact d'une personne positive au nouveau variant Omicron devra désormais s'isoler, même si elle est vaccinée. C'est le ministère de la Santé qui l'annonce ce soir. Aucun cas n'a pour le moment été recensé en France, mais sa propagation en Europe semble inéluctable. L'Allemagne confirme à l'instant 2 cas positifs sur son sol. 2 premières contaminations également au Royaume-Uni qui durcit les conditions d'entrée sur son territoire. Il faudra désormais réaliser un test PCR 2 jours après son arrivée et s'isoler jusqu'au résultat. Les réactions politiques se multiplient après cet échange de doigts d'honneur à Marseille entre Éric Zemmour et une passante. Un geste qui révèle sa personnalité et sa misogynie, dénonce Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle. Le polémiste, pas encore candidat pour 2022, a écourté sa visite dans la cité phocéenne après un accueil glacial sous les huées parfois des militants antifascistes. On en vient à ce nouveau féminicide hier soir à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Une mère de 44 ans a été tuée à coups de couteau au pied de son immeuble, tué par son compagnon à peine sorti de prison. Il avait été condamné en juillet dernier pour des violences et des menaces contre cette femme. Elle était dotée depuis d'un téléphone grave danger qu'elle n'avait pas sur elle au moment des faits. Tout le problème, dénonce Maître Steyer, avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, c'est que la victime n'était pas au courant que son compagnon avait été libéré.
Le téléphone grave danger permet à la victime de téléphoner au service de police en urgence. Encore faut-il qu'elle ait dans sa poche le téléphone. Ne sachant pas que cet homme-là sortait de prison, il est évident qu'elle n'était pas sur ses gardes. Il aurait fallu cumuler le bracelet anti-rapprochement et le téléphone grand danger.
Propos recueillis par Nerissa Emani. À retenir également dans l'actualité, 2 députés corses réclament l'ouverture d'un dialogue sur l'autonomie de l'île après la proposition du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Il s'est dit prêt à discuter de ce sujet pour la Guadeloupe, toujours en proie à une grave crise sociale. Et puis, 3 millions de créneaux réservés en 3 jours. La campagne de rappel vaccinal bat son plein. Elle est désormais ouverte à tous les adultes. 11 départements en alerte orange, neige et verglas dans les Alpes, les Pyrénées et près du Massif central. Demain, on aura toujours ce temps bien couvert et bien pluvieux sur le flanc est et le massif central. On aura également d'abondantes chutes de neige en montagne dès 300 mètres d'altitude. Dans le reste du pays, ce sera plus calme. Quelques éclaircies avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation en soirée par la Normandie. Les températures, elles seront comprises entre moins 4 et 8 degrés en matinée. On aura 1 à 14 dans l'après-midi. Les courses et l'arrivée du quintet cet après-midi à Vincennes. Il fallait jouer le 15, le 8, le 13, le 14 et le 5. RTL, il est 19h et presque 3 minutes. On continue à refaire le match avec vous, Christian Olivier.
Prochaines informations, 20h.
À tout à l'heure.
RTL. Revivre ensemble. Ouvrez bien les yeux avec Essilor. Pour finir l'année en beauté, vous allez en prendre plein la vue avec les verres progressifs Varilux et les opticiens Optique 2000. Jouez dès maintenant sur RTL.fr et tentez de gagner des vélos électriques, des vidéoprojecteurs, des coffrets cadeaux et plein d'autres surprises. Nous avons tant de choses à voir avec les verres progressifs Varilux. Voir plus, vivre plus, Essilor. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien.
Chaque dimanche sur Teva, Justine Pilouzeau fait frétiller nos papilles. Si à la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», vous ne savez plus quoi répondre, le batch cooking est pour vous. Grâce aux conseils et bonnes recettes de Justine Pilouzeau, cuisinez en une seule fois les repas de toute la semaine. Batch cooking, c'est chaque dimanche à 10h sur Teva.
Le Grand Prix RTL de la bande dessinée 2021 a été décerné à Du bruit dans le ciel de David Prudhomme aux éditions Futuropolis.
Du bruit dans le ciel, c'est une bande dessinée sur le bonheur. Le bonheur de retrouver les lieux de son enfance, de se souvenir des joies qui l'ont accompagné, de reconstruire l'histoire d'une ville où l'on a vécu et les rêves d'ailleurs qu'on a tous eus. Du bruit dans le ciel, c'est un roman graphique tendre et heureux, une chronique qui raconte à sa manière 40 ans d'histoire en France.
Du bruit dans le ciel, Grand Prix RTL de la bande dessinée 2021.
RTL, revivre ensemble.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
La suite dont refait le match avec une demi-heure, on va se régaler, une demi-heure de Ballon d'Or et puis des surprises ensuite avec la présentation d'un bouquin absolument formidable, 10 Faubourg Montmartre sous la direction de Gérard Ernaud aux éditions en Exergue, que je remonte une nouvelle fois, je montre de nouveau aux caméras dont refait le match, émission filmée 100% interactive. Rendez-vous pour parler de ce bouquin à partir de 19h30, puis à 19h45, les tirs au but où les plus faibles sont obligés, Gilbert Nez, vous
il
savez.
Il y en a beaucoup ici.
Oh, il y en a beaucoup de quitter le studio, mais il faut que le règlement soit respecté. Ah oui. Et ce sera une spéciale thématique incident olympique lyonnais, olympique de Marseille. Dans un instant, donc, le Ballon d'Or avec notre invité VIP Gérard Ernaud, ancien grand boss de l'équipe et donc de France Football. On fait le match avec Cindy Colmenares, Gilles Verdez, vous l'avez entendu, Xavier Barré et Philippe Sanfourche. Mais c'est une émission qui vous est proposée pour vous, les auditeurs de RTL, évidemment 100% interactive, avec vos nombreux messages sur le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux.
Absolument, Christian, beaucoup de messages évidemment sur Zidane et puis sur Pochettino, l'entraîneur parisien. Aurélien nous dit Zidane est pour moi lié à Madrid et l'équipe de France. Je ne lui vois pas du tout la même aura, ni les mêmes compétences, ni la même légitimité ailleurs. En plus, il n'a plus rien à prouver et surtout, il n'a rien à faire dans un club comme le Paris Saint-Germain. Mathieu nous dit Zidane dans un club structuré, cohérent et pour qui la fin est l'unique fin et le projet sportif, c'est un grand oui. Mais du coup, à Paris, c'est non. Avec Leonardo, c'est contre-productif. Et d'ailleurs, peu importe le coach, Zidane deviendra fou comme tous les autres. C'est le message de Mathieu. Damien nous parle aussi du coach parisien. Il nous dit Pochettino n'a pas la main, ne l'a jamais eu et ne l'aura jamais. C'est un salarié. Il subit, il est passif, mais avec son salaire, il s'en contente. Peut-être Paris sacrifie encore un super coach. Et Pochettino se gâche. Et puis dernier message de Ludo qui nous dit au-delà de ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire rien, il n'y a aucune passion, aucune énergie dans son discours, dans ses réponses à la presse. Il est nonchalant déjà à la retraite. Et le pire, c'est que Pochettino n'est pas comme ça par nature. C'est le club qui le transforme, comme il a transformé Tourelle et Emery.
Madame, messieurs, si vous voulez commenter les messages des auditeurs, n'hésitez pas, c'est open. La Coupe de France, Baptiste Durieux. C'est la Coupe de France avec les clubs de Ligue 2.
Exactement, deux clubs de Ligue 2 sont concernés à l'instant où l'on se parle. On vient de reprendre et on vient de débuter la seconde période. C'est le Paris FC qui est concerné, qui mène 2-0 face au Guyanais de Cayenne. Et puis Amiens également joue en ce moment et mène 3-1 face à Cambrai. Cambrai, club de Régional 1.
Plein de résultats dans RTL Foot, des résultats de Coupe de France évidemment à partir de 20h avec le tandem Silvestro Castaldi ce soir et le débrief également de Lille-Nantes. Un but partout, c'était le match de 17h en attendant évidemment le grand format de la soirée qui opposera à 21h Nice au FC Metz. Le Ballon d'Or, madame, messieurs, cher Gérard, Gérard Ernaud, 13 Ballons d'Or au total pour ce qui vous concerne entre
14.
Ouais. Alors attendez, je ne sais plus compter, de 1995 à 2017.
Oui, mais j'en ai remis un à un certain Michel Platini, qu'il n'avait pas reçu en 2005. Ah, ben oui.
Comment se fait-il ?
Pour une raison de compatibilité ou d'incompatibilité.
Ou de calendrier, on va dire ça comme ça.
Ou de calendrier avec la rédaction de France Football de cette époque-là, il n'avait toujours pas reçu son ballon d'or.
14 ballons d'or.
Plus que Messi quand même.
C'est formidable. Alors ça, c'est une première ligne au palmarès, madame, messieurs, quand même. Oui. Hein. Et la deuxième ligne, c'est que vous êtes à l'origine de la mondialisation du ballon d'or.
Oui, oui, oui. J'ai procédé à la révolution, la mondialisation du ballon d'or. En 1995, ouais, je vous dis pourquoi.
Allez-y.
J'avais trouvé anormal à ce moment-là que des joueurs comme Maradona ou Romario, qui avaient fait toute la carrière de club en Europe, ne puissent être concurrents dans la course.
Oui, mais alors,
au Ballon d'Or.
On citera les critères, et parmi les critères, il y a le fair play. Concernant Maradona, attendez, et le fair play.
Attendez. C'est quand je suis arrivé. Donc j'avais trouvé ça dommage et injuste pour eux, et je l'avais trouvé dommage pour nous, et France Football. Et à partir du moment où l'Europe devenait le centre de gravité du football mondial, j'ai décidé, avec mes camarades de France Football...
Enfin, vous avez quand même décidé.
J'ai décidé de mondialiser le Ballon d'Or.
Et quelques années plus tard, le jury était également...
Et j'ai fait la mondialisation oui. 15 ans après.
Et donc le premier Ballon d'Or hors Europe, c'était...
Et le premier Ballon d'Or était George Weah.
Président du Liberia. Voilà.
Et l'idée que j'avais en tête, surtout à cette époque-là, c'était de lutter contre le FIFA World Player qui venait de naître.
Ah, il y avait une grosse concurrence entre le Ballon d'Or.
Et une concurrence très forte arrivée.
Et la Fédération internationale de football.
Voilà. Et donc j'ai modifié le fond, mais j'ai modifié la forme, dont je peux dire un tout petit mot,
bien
si
sûr,
vous voulez.
Bien sûr, vous êtes là pour ça.
Bon. Donc nous avons décidé de puiser le vote du Ballon d'Or dans une liste de 50 joueurs. Pour aujourd'hui, c'est entendu que ce soit comme ça. À ce moment-là, c'était une nouveauté. Et c'était une liste qu'on publiait au mois d'octobre. Mmh. Et ensuite, j'ai organisé un protocole en trois phases de la remise du Ballon d'Or. D'abord, une remise du Ballon d'Or dans le journal, dans le magazine, avec les photos. Mmh. Deuxième protocole, émission de télévision, en direct ou pas en direct, mais le plus souvent en direct. France Télévisions, Canal+, TF1. Et puis, troisième protocole, remise obligatoire du Ballon d'Or sur le terrain du lauréat, devant son public. Et cela a donné une visibilité extraordinaire au Ballon d'Or.
Alors, très bien, on va pouvoir en débattre, et là, ça s'appelle une passe décisive. Car le Ballon d'Or, cher Gérard Arnault, repose sur des critères qu'on va évoquer, et notamment, évidemment, et essentiellement les critères sportifs, mais il y a quelques critères également marketing.
Non, pas du tout. Quand je suis arrivé, j'ai rédigé un règlement. Et j'ai, dans ce règlement, évoqué quatre critères.
Je peux les citer précisément ?
Oui.
Ensemble des performances individuelles et collectives, notamment le palmarès, pendant l'année civile considérée.
Très très bien.
Classe du joueur, le talent plus le fair play. On est d'accord ? Troisième, la carrière, l'ensemble de la carrière. Nous sommes d'accord. Et quatrième critère, la personnalité et le rayonnement du joueur en question.
Voilà, c'est ça. Mais le premier critère était déterminant. Il s'agissait de juger un joueur, d'apprécier un joueur individuellement d'abord. Individuellement. Est-ce qu'il avait été meilleur buteur de sa compétition, de son championnat ? Et ensuite, de l'apprécier dans le cadre des performances de son équipe.
Sur votre palmarès, j'allais oublier également, vous avez organisé le cinquantenaire du Ballon d'Or. Oui. Et là, vous avez, évidemment, par définition de leur vivant, accueilli tous les joueurs de Di Stéfano à Platini, voilà, en passant par Johan Cruyff et Beckenbauer.
Le cinquantenaire a été une très 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 grande fête du Ballon d'Or et nous a permis effectivement d'accueillir pratiquement tous les vainqueurs vivants du Ballon d'Or, dont Di Stéfano, les noms que vous avez effectués.
Votre meilleur souvenir, Gérard Arnault, votre meilleur souvenir Ballon d'Or, un seul. Parce que après, ce sera le pire. Hein.
Non, j'ai beaucoup de souvenirs. Je crois que celui qui correspond le mieux au Ballon d'Or, c'est justement la remise du Ballon d'Or à Ronaldinho dans le cadre des 50 ans. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ?
Bien sûr.
Voilà. Et ça se fut une très très grande cérémonie. Et puis, à un moment, va avoir lieu la remise du Ballon d'Or. J'étais dans la salle, je vais rejoindre Ronaldinho dans le salon où il était, tout seul, en attendant que j'arrive pour l'entrée avec moi. Ronaldinho pleurait. Et Ronaldinho, il pleurait tout simplement parce qu'il gagnait. Et il gagnait devant le collège de ses prédécesseurs. Et il gagnait devant sa mère. Et donc, ce grand garçon, qui avait 25 ans ou 26 ans, qui était un diétante, qui était assez noceur, assez fêtard. Il était un petit garçon.
Il avait un petit cœur derrière la carapace.
Il était un enfant devant le Ballon d'Or, comme tous les vainqueurs du Ballon d'Or ont été des enfants devant leur Ballon d'Or.
Le pire souvenir. Pas de langue de bois, genre. Le pire souvenir.
Je n'ai aucun mauvais souvenir. Je n'ai que des bons souvenirs. Cannavaro. Alors, Cannavaro.
Ah.
Cannavaro.
2006.
Ah, dis donc, vous êtes très bon. Hein.
Cannavaro devant Buffon.
Buffon a pleuré. Buffon a pleuré parce qu'il n'a pas eu le ballon d'or. Cannavaro l'a eu. Cannavaro l'a eu, mais il était capitaine de l'équipe championne d'Italie. Il avait fait un tournoi remarquable. Il avait été récompensé comme meilleur joueur du tournoi par tous les entraîneurs des différentes équipes.
Vous pouvez interroger Gérard Arnault et débattre. Et dire, ça a été un scandale en 2006. Hein.
Ah non, pas
ah,
du
si,
tout.
Ah si, c'est pas non. Moi qui le dis, c'était paix à son âme, Gérard Rouillet.
Oui,
c'est un scandale.
Gérard, quelque estime que j'ai pour lui, il ne peut pas représenter un scandale à lui tout seul. Ça, c'est pas possible.
Lui pensait que Thierry Henry, avec sa carrière,
non,
avec
pas
ses
en 2006.
20. Ah, si, c'était Thierry Henry qui plantait 20 buts par saison.
Bah, mais Gérard et quiconque peut penser ce qu'il veut, il y a un règlement. Et
puis il y a un jury.
Et il y a un jury, il y a un règlement.
180 journalistes, hein. C'est bien ça, Gérard.
À mon époque, c'était genre, 52.
Oui. C'était mais d'accord. Mais maintenant, c'est
aujourd'hui.
Gilles Verdez.
Moi, j'ai une question, cher Gérard, qui me taraude depuis longtemps. J'attendais de vous avoir en face pour vous la poser. C'est une ombre au tableau, c'est Zidane. Zidane n'a eu qu'un ballon d'or. Mais comment ne peut-on donner qu'un seul ballon d'or à Zidane? Alors, je sais bien que parfois, il y a eu des comportements. Mais quand je pense que Nedved, Cannavaro, Owen ont eu un ballon d'or... Le même nom que Zidane, ça me choque terriblement.
Alors, je voudrais signaler à notre ABG, on ne donne pas le ballon d'or.
Ah, ok.
Non. Le ballon d'or,
on l'accorde.
Non,
il est élu.
On le dessert.
Il est élu par
le ballon d'or, c'est pas un cadeau. C'est une élection. Alors, quant à Zinedine, alors là, je peux vous dire une chose. Il gagne en 1998.
Haut la main.
Il va gagner en 2000 haut la main. Et je peux vous dire autre chose. On sent tellement qu'il va gagner qu'on prend contact avec ses frères. Pour savoir comment on va organiser la cérémonie.
L'interview, elle est faite longtemps à l'avance, en règle générale.
Non, attendez, ne perturbez pas. Je continue mon histoire.
Mais c'est pour
répondre à Gilles. Le scrutin va démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un match de la Juventus
contre Hambourg.
Zidane, coup de tête. Et je peux vous dire qu'un coup de tête dans l'ensemble du jury, mais en particulier chez les jurés anglo-saxons et nordiques, alors ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Donc, mais qui ne passe pas du tout.
Bon.
Chez les nordiques, c'est zéro point.
Alors,
et Zidane perd et Figo gagne.
Oui,
mais le ballon d'or, c'est pas un cadeau. Hein. Ouais. On donne pas le ballon d'or.
Je voudrais vraiment qu'on parle du ballon d'or maintenant.
Mais on va parler du ballon d'or. Suite à la situation sanitaire, il n'y a pas eu de ballon d'or la saison précédente. Quel est votre avis par rapport à cette situation? Parce qu'on présentait un certain Lewandowski qui les méritait et qui ne l'aura pas, du coup, parce qu'il n'y a pas eu de ballon d'or.
Ce qui est passé est passé.
Est-ce qu'il va venir?
Est-ce qu'il l'aura cette année?
Alors, on va tenter de répondre à la question grâce notamment à nos amis de Doxa. Accueillons Gaël Slimane, le patron de Doxa. Bonsoir Gaël.
Bonsoir Christian.
Avec un baromètre sport pour RTL et Kenéo concernant justement cette remise du ballon d'or de lundi soir. Le ballon d'or, d'abord l'image, on en parlait avec Gérard Arnault. L'image du ballon d'or, pour les Français, pour les amateurs de foot, c'est un rendez-vous toujours très important, toujours très suivi, Gaël.
Oui, absolument. On a interrogé comme d'habitude les Français, mais on a regardé de plus près ce que nous disaient les 40% de Français qui suivent le football, qui s'y intéressent, et puis les fans de foot. Et pour tout le monde, c'est un événement considérable que ce ballon d'or. Les fans de foot, par exemple, sont les deux tiers à nous dire le suivre chaque année. Donc ça fera plaisir à Gérard Arnault. On vient d'entendre votre débat sur Cannavaro, ça a laissé des traces, ça, quand même, parce que on a des Français, des amateurs de foot qui nous disent, dans les défauts du Ballon d'Or, ça dépend trop du palmarès à leurs yeux et ça ne récompense pas suffisamment les performances individuelles. L'année où Cannavaro l'a eu, si Zidane n'avait pas mis encore un coup de tête, il aurait peut-être eu son troisième Ballon d'Or, puisque Gérard Arnault nous disait qu'il en méritait un en 2000 aussi. Le reproche qui est fait aussi parfois au Ballon d'Or, c'est de récompenser trop souvent des joueurs offensifs pas toujours finalement récompenser le meilleur joueur du monde.
Alors, la parole est à la défense du Ballon d'Or, Gérard Arnault.
Non, mais on évoque le cas Zidane en 2006. Hein.
Oui.
Mais c'est pareil qu'en 2000, il met un coup de tête. Il met un coup de tête. Il est impossible qu'il ait les ballons d'or dans ces conditions. Bon. Il ne répond pas à un certain nombre de critères qui sont là.
Le critère du fair play sur lequel Gérard a beaucoup insisté en présentation des critères du ballon d'or a toute sa portée dans cette histoire avec Zidane.
Oui, moi je veux bien, d'accord. Mais quand vous remettez un ballon d'or d'honneur à Diego Maradona.
Oui, mais moi, je n'étais pas président.
Non, mais on parle du ballon d'or dans sa globalité.
Oui, mais il n'est pas au palmarès.
Il n'est pas au palmarès, mais un ballon d'honneur, vous accentuez peut-être encore davantage, justement.
Non, attendez.
Parce que vous faites remarquer qu'il y a peut-être eu une erreur à ne pas lui avoir donné parce qu'on ne pouvait pas.
Non,
parce
on ne donne pas, on ne donne pas.
Oui, décerné, pardonnez-moi.
S'il vous plaît, décerné. Et ce n'était pas sous mon mandat, d'ailleurs. J'ai succédé à cette période. Et peut-être que c'est pour cette raison que j'ai essayé, entre guillemets, de moraliser l'affaire.
Gaël Slimane pour Odoxa, pour RTL, pour Kenéo. Zidane, pour les Français, c'est le meilleur ballon d'or tricolore, et devant Platini, et devant Raymond Coppa, et devant Jean-Pierre Papin.
Oui, il écrase tout. Vous l'avez dit, Christian, pour les Français, on est sur une hiérarchie très nette. Hein. 51% voit Zidane comme le meilleur des ballons d'or français, des quatre ballons d'or que nous avons eus. Devant Platini à 24%, Coppa à 13% et Papin à 8%. Chez les amateurs de foot et chez les fans de foot, on est sur exactement la même hiérarchie, il n'y a pas de différence. Mais ce que j'ai trouvé le plus troublant dans notre sondage, c'est finalement qu'il n'y a pas tant que ça d'effet d'âge. On aurait pu imaginer que pour les plus de 65 ans ou les 50-64, eh bien, le duel soit plus serré entre Platini et Zidane. Pas du tout. En fait, Zidane écrase tout. Ça restera. Il reste le joueur des légendes pour les Français.
Un commentaire, Philippe Sanfourche.
Je trouve que c'est totalement contradictoire avec ce qu'on a entendu au début sur les résultats du baromètre. C'est-à-dire que les Français se plaignent qu'il y ait trop de corrélation entre le palmarès collectif et l'attribution du ballon d'or. Or, on peut imaginer, sans prendre de risque, que si Zidane écrase tout, c'est parce qu'il a été champion du monde.
Oui.
C'est parce que la France a gagné la Coupe du Monde avec Zinedine Zidane et que Michel Platini ne l'a pas gagné. Parce que si on se penche vraiment sur la carrière de Michel Platini et sur la manière dont il a eu une ligne directrice et où il a été le meilleur joueur du monde pendant 3-4 ans consécutivement, Zinedine Zidane n'a jamais eu cette régularité.
Si on parle, Ernaud.
Gérard, donc pourquoi
c'est pas grave, je l'aime beaucoup.
C'est la deuxième fois.
Si on parle,
et pourtant Platini 3 ballons d'or.
Voilà, si on parle strictement du ballon d'or, Platini est un meilleur ballon d'or que Zidane.
Oui.
Pour moi, ça ne pose pas de problème. Et dans la perception peut-être qui nous est rapportée par M. Slimane, je pense que les problèmes de Michel Platini depuis 6 ou 7 ans peuvent avoir eu leur influence et jouer.
Il y a aussi un élément, Christian, oui, qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque où Platini a le ballon d'or, 3 années de suite, il n'y a pas de concurrent sud-américain, notamment Maradona, puisque à l'époque, il n'y avait que les joueurs européens qui concouraient pour le ballon d'or. Alors que quand Zidane, lui, est lauréat en 98 et est à nouveau tout près de le remporter en 2000, il y a des concurrents sud-américains, il y a notamment Ronaldo qu'il a eu en 97, il y a Rivaldo qu'il a eu en 99, donc des Brésiliens, et Ronaldo l'aura à nouveau en 2002. Donc,
le débat.
La concurrence s'est relevée.
Le débat du jour. C'est lundi soir, le 65e Ballon d'Or. Qu'on ne donne pas, mais qu'on décerne. J'ai bien noté.
Très bien.
Gérard Ernaud. Alors, les Français pensent à Mbappé, Gaël Slimane, pensent aussi à Benzema, mais estiment que c'est Lewandowski, le Polonais du Bayern Munich, qui devrait normalement recevoir ce Ballon d'Or.
Mais en fait, vous avez, Christian, trois catégories de population. L'ensemble de la population française, nos mamans, nos cousins, nos beaux-frères, qui peuvent ne pas s'intéresser au foot. Et Mbappé est marquant pour eux. Et donc Mbappé écrase tout auprès de l'ensemble des Français. Et quand on affine et qu'on va regarder ce que nous disent les gens qui s'intéressent au moins un petit peu au football, bah, l'écart est beaucoup plus resserré entre Mbappé, Benzema et Lewandowski, mais toujours avec cette hiérarchie-là. Et auprès des fans de foot, les gens comme vous et moi, les gens qui suivent les matchs, qui s'y intéressent, là, la hiérarchie, elle sort Mbappé, et on a en 1 Lewandowski, en 2 Benzema, et en 3 N'Golo Kanté, ex aequo avec Mbappé et devant Messi. Et cette hiérarchie-là, elle paraît plus en phase avec ce qu'on peut lire, entendre, ressentir de ce que pourra être le verdict de lundi avec peut-être un Lewandowski très haut. Et étonnamment, chez les fans de foot, Messi, c'est peut-être à cause de ses performances avec le PSG depuis la rentrée, Messi est assez décroché.
Messi, 34 ans, qui remporte la Coupe d'Amérique et la Coupe América, 4 buts, meilleur buteur de la Liga, c'est pas rien quand même. Oui. Alors, Lewandowski ou Messi, madame Messi? fastidieux.
On est fatigué. En fait, je pense qu'il y a une énorme fatigue par rapport à Messi. Enfin, Lewandowski, la saison dernière, clairement, il a tout survolé.
C'était la saison dernière. Ne parlez pas de la saison dernière. Parlez-moi de 2021.
Et cette saison, il est incroyable. Tandis que Messi, certainement, en Copa América, il a enfin eu un titre international. Mais on sait très bien qu'une Copa América n'est pas forcément égale au niveau qu'on peut avoir ici en Europe. Donc, moi, je pencherais plus pour un profil Lewandowski.
Gilles Verdez.
Ce sera Messi parce que quand vous ne savez pas à qui le donnez à Messi, ça fait bien, tout le monde est content, ça fait de la promo, du marketing.
Donc
ce sera
Messi. Dessert,
alors il sera décerné à Messi parce que c'est formidable et que voilà, il entrera dans le livre des records. Lewandowski, c'était l'année dernière et Benzema sera sur le podium. Et Benzema, il y a un petit côté judiciaire qui sans doute a
Les votes avaient été faits, la désignation avant de connaître.
Oui, on savait qu'il y avait le procès, on savait qu'il y avait cette vieille affaire.
Encore une fois, en France, mais à l'international, est-ce que ça a un retentissement majeur chez les votants?
Peut-être, mais quelques points, quelques points. Mais ce sera Messi, ce sera Messi.
Moi, je vais essayer de me limiter aux performances et aux règlements.
Vous êtes un puriste.
Oui, j'essaie. Papy Messi, excusez-moi, non, il trottine.
Oui, mais alors, Gérard, attendez, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Papy Messi, il gagne la Coupe América.
Mais très très bien.
C'est le meilleur, c'est... avec 4 buts, inscrits. C'est le meilleur buteur de la Liga. Non, mais laissez-moi, attendez, permettez-moi. C'est le meilleur buteur de la Liga. Il remporte la Coupe d'Espagne. Son palmarès, sa carrière totale, c'est quand même l'un des critères. 158 sélections et 80 buts.
Mais une année, c'est 6 mois plus 6 mois.
Comment ça?
C'est 6 mois plus 6 mois.
Il y a les premiers 6 mois, puis il y a les
deuxièmes.
Ouais, est-ce que vous estimez avec, moi
Mais le rôle de donne à qui, Gérard?
Pour moi, c'est Lewandowski.
Voilà, mais ça va faire plaisir aux passionnés des footballs.
Lewandowski tourne autour depuis quelques temps, ce qui n'est pas le cas de Mbappé. Ni de. Je sais plus le.
Benzema.
Ni Benzema.
Benzema. Il est champion. Il voudrait bien tourner autour.
Oui, mais pas comme le Vendée.
Et champion d'Allemagne, c'est suffisant pour être ballon d'or.
C'est un grand championnat. Il a battu le record de Gerd Müller, si je ne m'abuse.
Oui, c'est vrai.
Il a battu un autre record en Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il a une centaine de buts. Il y a peut-être quelque chose qui inspirera les votants. Séance de rattrapage.
Non, mais j'ai la question qui tue, là. Parce que,
je mettrais Lewandowski.
C'est excellent, c'est le monde merveilleux, mais dans la réalité, on sait que les Ballons d'Or, il y a un jury international et qu'eux, ils n'ont pas votre lucidité. Donc, demande, ou une lucidité certaine, d'ailleurs.
Moi, j'ai la lucidité nécessaire.
Et donc,
vous dire que Jorginho, normalement, devrait être Ballon d'Or.
Vous voulez tuer France Football, là.
Jorginho qui remporte la Ligue des Champions.
Non, mais déjà pas au mieux.
Jorginho qui remporte la Ligue des Champions, qui est milieu de terrain. Tous les autres, ce sont des attaquants. Place un peu aux joueurs de l'ombre.
Vous n'observez pas le règlement.
Non. Mais pourquoi?
C'est la valeur individuelle qui prime.
La classe. Et la valeur individuelle.
Moi, j'ai pas pu jouer Jorginho tous les samedis, mais à chaque fois que je l'ai vu, je me suis régalé.
Oui, mais bien sûr. Non, mais vous n'avez pas tort. Mais je pense pas que ce soit Jorginho qui l'emportera.
Ben oui, mais c'est pas normal.
Mais parce qu'il y a un côté marketing.
Jorginho est un bon joueur. Jorginho a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Rien qu'à son poste, déjà, N'Golo Kanté, il a deux Jorginho dans chaque jambe. Et le championnat d'Europe, c'est l'Italie. Et rien qu'à son poste, Marco Verratti a deux Jorginho dans chaque jambe. Donc si déjà dans ses équipes,
il a deux Jorginho dans les jambes, alors qu'il finit 40% des matchs.
En finale, c'est au moment où Verratti prend les clés du camion que l'Italie devient.
Que celui qui avait
champion d'Europe. Est-ce que
c'est arrivé que celui qui avait tout gagné ne le gagne pas. Varane en 2018 n'est pas Ballon d'Or.
Les performances individuelles et collectives, Jorginho, il remplit le premier critère. On est d'accord. La classe du joueur, le talent, c'est un joueur formidable. Il a passé la trentaine. C'est un milieu de terrain, ce n'est pas un attaquant. On est d'accord.
Mais personne ne le connaît.
Donc
le Ballon d'Or est aussi du marketing.
Non, c'est pas du marketing.
Oh, Gérard.
Mais non. Un peu.
C'est pas du marketing.
Mais est-ce que vous ne regrettez pas quand vous avez rendu ces Ballons d'Or mondiales, qui est une idée excellente, est-ce que vous ne regrettez pas que le jury, lui, soit international et parfois pas forcément lucide et haut niveau?
Non, mais le jury. Alors là, vous posez un. Alors.
Gérard.
Le jury européen que j'ai dirigé, animé, 52 personnes, avait la culture du Ballon d'Or.
Voilà.
L'extension du Ballon d'Or à un jury mondial, qui d'abord a été placé sous la tutelle de la FIFA et qui comportait des entraîneurs, des capitaines et des journalistes. allait complètement à l'inverse de la culture du jury des journalistes. Et je pense que le nouveau jury, très large, aurait besoin d'un petit stage de formation pour revenir à la culture ancienne. Et dans ce cas, je remonte le temps, le monopole de messieurs Messi, que vous aimez beaucoup, pardon, et Ronaldo aurait certainement été, à un moment donné, interrompu et aurait permis de glisser dans ce jury, dans ce moment, un joueur espagnol représentant un grand club et une grande nation.
Alors, vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire.
Tout.
On va tourner une page de publicité. On va retrouver Gaël Slimane pour parler de Mbappé, spécifiquement sur le Ballon d'Or. Allez, on va prendre quelques instants, justement, sur des questions un peu poil à gratter, Gérard, concernant le Ballon d'Or. Pas de langue de bois, non, on fait le match. Et puis ensuite, focus hein, sur ce bouquin que je monte une nouvelle fois aux caméras, mais ça c'est autre chose, mais ça concerne le sport, ça concerne le football également. 10 Faubourg Montmartre, sous la direction de Gérard Arnault, direction en exergue. La pub, à tout de suite, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match. Envie de parier sur le sport, avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleures cotes du marché.
Winamax, les meilleures cotes.
Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Madame Figaro lance son premier hors-série dédié aux chiens et aux chats. 100 pages pour rendre votre animal plus heureux, mieux l'aimer, le comprendre, le soigner. Reportage dans l'intimité des chiens et des chats de célébrités. Décryptage, conseils pratiques d'une vétérinaire. Toutes vos réponses sont dans le nouveau hors-série de Madame Figaro. Actuellement chez votre marchand de journaux.
À Noël, émerveillez-vous avec Un garçon nommé Noël sur Canal+. Visez dans le mille avec Hawkeye, la nouvelle série originale des studios Marvel en streaming dès maintenant sur Disney+. Et évadez-vous avec La Casa de Papel partie 5 sur Netflix. Jusqu'au 26 janvier, profitez de la série limitée Canal+ Ciné-Série pendant 24 mois hors option TV+, à 25,99€ par mois les 12 premiers mois. Voir conditions sur boutique.canalplus.com.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match et comme d'habitude, et comme toujours d'ailleurs, c'est animé aussi pendant la publicité. On va encore parler un petit instant du Ballon d'Or, puis le bouquin 10 Faubourg Montmartre et les questions tir au but consacrées ce soir aux incidents de dimanche dernier, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Gaël Slimane, vous êtes toujours avec nous. La quatrième et dernière thématique que nous avons consacrée dans ce sondage Odoxa Kené RTL, elle concerne notamment les Français, mais plus précisément Kylian Mbappé. Et là, qu'on soit Français ou qu'on soit amateur de football, on voit gros comme une maison, comme une pancarte, Kylian Mbappé désigné durant sa carrière Ballon d'Or et même très très rapidement finalement.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de doutes. Alors, ils seront peut-être détrompés, hein, mais il n'y a pas beaucoup de doutes ni chez les Français, ni chez les amateurs de foot, ni chez les grands fans de foot. Kylian Mbappé va remporter un ballon d'or durant sa carrière. Ils sont 8 à 9 sur 10 à le dire. Et ils sont même une très large majorité, alors là ça lui met la pression à Kylian, à penser qu'il va remporter ce ballon d'or dans les 3 ans à venir. Par exemple, les 2/3 des amateurs de foot sont persuadés qu'il soulèvera le trophée dans les 3 ans à venir.
Un commentaire, madame, messieurs. Alors évidemment, ça, c'est du pronostic, c'est de la supputation.
Qui peut aller contre un sentiment pareil?
Oui, mais les aléas d'une carrière, Gérard.
Eh bien oui, bah, les aléas, oui, mais on parle d'aujourd'hui. Là.
Oui, bien sûr. Oui,
alors on est prudent, bon. Les aléas.
Mais... Merci beaucoup, Gaël Slimane, en tous les cas, pour cette étude vraiment très, très intéressante, avec d'autres informations demain matin, 9h dans la matinale de Stéphane Carpentier. Information avec Nicolas Georgerot. Très bonne soirée, Gaël Slimane.
Merci.
Alors, le Ballon d'Or. Quelques questions poil à gratter, tout de même.
Encore ?
Ah oui. Si
vous ne les trouvez pas, moi j'en veux une.
Philippe Sanfourche ouvre le bal. Allez, Philippe Sanfourche.
Non, je voulais savoir, parce que vous avez dit que ça rendait des joueurs heureux. Vous nous avez raconté cette anecdote avec Ronaldinho. Mais il y en a à qui ça fait tourner la tête aussi, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a peu d'heureux et il y a beaucoup de déçus. Mmh. On se souvient notamment de Franck Ribéry en 2013, qui avait été, à son sens, injustement lésé.
C'était une de mes questions.
Oui. Moi, est-ce que vous avez reçu des coups de fil? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont venus à vous pendant toutes ces années, furieux ou déçus ou malheureux, tristes, pleurants?
On m'a rapporté la très grande déception de Roberto Carlos. Jean-Luigi Buffon, qu'on a pleuré. Et il y a un joueur que je suis allé voir à Londres une année et qui s'appelle Thierry Henry. Car il avait été battu par Nedved. Et donc, j'étais allé m'expliquer avec lui. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été battu par Nedved. Nedved, je pense que Thierry n'avait pas remporté de titre, peut-être, cette année-là.
En 2003,
oui. 2003. Nedved, oui.
Comment vous lui expliquez ça?
Eh bien, ce n'est pas facile. Je lui ai dit la chose suivante. C'était le temps où le jury comportait une cinquantaine de jurés européens. Je l'avais divisé en quatre, ce jury. J'avais pris les anglo-saxons, les méditerranéens, les nordiques et les pays de l'Est. Et dans chacun de ces collèges, Nedved l'emportait devant Thierry Henry. Et donc, il était impossible pour lui de riposter à cette évidence. Et la seule chose, en fait, qu'il me demandait en douce, « Mais vous, monsieur Ernaud, vous êtes président. J'ai perdu de très peu. »
Vous auriez pu pondérer.
Grosso modo, il ne le formulait pas comme ça. Et je pense que notre conversation a dû durer trois quarts d'heure. Et alors, il était toujours convaincu par les mêmes arguments que j'avançais, mais ça ne l'empêchait pas de me relancer. Et vous, monsieur Ernaud, vous auriez pu.
Et concernant Ribéry, qui n'a toujours pas digéré de ne pas avoir le ballon d'or, il faut lui rappeler à Ribéry que c'était.
En 2013, je n'étais plus là.
Non, mais c'était pas les journalistes, c'était le collège, commission FIFA, les entraîneurs, les sélectionneurs. On est d'accord, Xavier Barré.
Oui, et puis parfois, on ne sait pas qui votait d'ailleurs. Parce que c'était une autre époque, mais il est arrivé qu'il y ait des scandales. On disait que c'était soi-disant le sélectionneur ou le capitaine d'une équipe nationale qui votait, et puis il n'avait jamais voté.
Gilles Verdez.
Oui, Gérard, il y a des clubs pour lesquels le ballon d'or, c'est vital. C'est essentiel, comme le Real Madrid. Et moi, on m'avait dit à l'époque que le lobbying du Real Madrid, qui est très fort, et ça, ils ont le droit, il allait jusqu'à même influer ou essayer d'arracher des votes de certains membres du jury. Est-ce que c'est vrai?
Tous les membres de ce jury sont intègres, Gérard Agnès?
Moi,
Gérard Ernaud.
Alors, je vais vous dire, là, moi, Gérard Ernaud, président, jamais je n'ai subi quelque influence que ce soit.
Jamais.
On sait que certains jurés, et notamment en Espagne, pour notre ami Paco Aguilar, qui n'est plus juré maintenant, mais qui l'était à l'époque et qui était lui à Barcelone, il avait souvent une grosse pression des madrilènes, par exemple, pour voter Raoul ou pour voter... Voilà. Donc c'était toujours pour un exercice difficile. C'est propre seulement dans les grands pays et on a affaire à des grands experts qui ne se laissent pas influencer comme ça.
Oui, Gérard Ernaud. Vous savez pourquoi, d'abord, je pense à Agnès, parce que j'ai une autre question le concernant, mais pour le bouquin à suivre. Me turlupine depuis le début de l'après-midi, cette affaire.
Au moment de la procédure de vote, avant le vote, je faisais une note générale aux jurés, à tous les jurés. Je ne voulais plus les entendre après. Aucun contact avec eux. Terminé.
Bon. Il n'y avait pas les mails à l'époque, si?
Il n'y avait pas?
Les mails,
non, ça n'existait pas.
Oui ou non,
au début, non, mais non. Gérard début, est quand non. même resté 15 ans.
Je vais vous faire une belle équipe, la Ballon d'Or, qui pas de Ballon d'Or. Dans les buts, Buffon.
Bravo.
En défense, Roberto Carlos.
Super.
Maldini. Ramos, Cafu.
Magnifique.
Pas de Ballon d'Or. Ouais. Milieu de terrain, Iniesta.
Oui.
Ah, Iniesta.
Richcart.
Oui.
Xavi.
Oui.
En attaque, Henri, on vient d'en parler. Oui. Raoul, oui, Bergkamp.
Oui.
Remplaçant, c'est pas terminé, monsieur Ernaud.
Oui, oui.
Neuer, oui. Baresi, Puyol, Lam, Lampard, Gérard. Pirlo.
Eschnes, non.
Ribéry. Eto'o. Del Piero et Cantona.
Quel sélectionneur vous êtes.
Oui, mais en remontant dans le temps, il y a Ferenc Puskás qui l'a jamais eu non plus.
Il faut qu'un vainqueur.
Donc, il y a des grands joueurs qui ne l'ont pas eu. Voilà, il faut être au rendez-vous une année donnée. Parfois, il y en a un qui est un petit peu meilleur.
Cruyff n'a jamais gagné la Coupe du Monde, mon petit...
mon petit Christian.
Bon.
Et Messi non plus à cette heure.
En tout cas, c'est une...
Messi.
Il aura 7 ballons d'or, Messi.
Bon, à suivre en tout cas lundi soir. Ça a été en tout cas un moment important de votre carrière, Gérard Ernaud, le ballon d'or. C'est quelque chose. C'est... Moi, j'aurais aimé. Vous avez mais... conservé tous les numéros de téléphone de ceux qui sont encore en vie.
Tous. Hein.
Bon, on va se voir à la sortie.
Shevchenko a été un grand ballon d'or.
Ah oui.
Un type de grande classe.
On enchaîne.
Juste alors, pour lever un secret, qui appelle le premier le ballon d'or?
Non. Ce n'était pas moi.
Qui avait cette responsabilité?
Je déléguais à quelqu'un, un reporter, un grand reporter, de se rendre chez le...
Oui, mais pour l'annonce, la première annonce.
De lui annoncer.
Ouais. Physiquement, ouais. Physiquement? Non, d'abord, coup de fil.
Téléphone.
Et l'interview, elle se fait combien de temps avant?
Avant.
Avant la publication des résultats.
Non, mais dès que le joueur était prévenu, on prenait contact avec lui pour aller le...
Et en
le
moyenne, voir, combien de temps avant, en moyenne?
Non, entre quoi et quoi?
Mais pour faire l'interview.
Et qu'est-ce que vous appelez l'interview?
Il y a une interview dans France Football.
Et ça pouvait être le lendemain.
Non, mais avant publication.
Non, mais avant la remise.
Avant publication.
Avant la remise.
Mais là ça a changé.
Là, ça a changé. Ça a changé
au fil du temps.
Une semaine, ça pouvait être 3 jours, ça pouvait être 10 jours.
Parce qu'on nous dit que l'interview de Messi est en boîte actuellement.
C'est pour ça que l'info est toujours filtrée. Bon, avec les photos et l'interview.
Bon, donc ce sera Messi.
Excusez-moi, j'avais pas très bien.
Donc ce sera Messi. Ce sera Messi. Allez, c'est vraiment une spéciale Gérard Ernaud ce soir. On fait le match jusqu'à 20h. Parce qu'après le Ballon d'Or, alors là. Ça, c'est quelque chose vraiment que je vous conseille, amis auditeurs. Mais avant, on va... Baptiste Durieux est-il toujours là? Non, il est... Baptiste Durieux prépare la Coupe de France et tout le reste de l'actualité, 20h, 23h. Voilà. C'est 10 Faubourg Montmartre, sous votre direction, édition en exergue. Ce livre est une pépite, vraiment pour tous ceux, je le disais, qui font ce métier, qui ont fait ce métier, et ceux qui sont curieux, qui aiment le sport dans sa globalité. Avec des articles... extrait des meilleures éditions de l'équipe ou remis.
Certains quand même. Il y a 80% de textes originaux.
C'est ça, c'est ce que je dis.
Ils sont pas extraits de l'équipe, ils sont originaux. Ils ont été
Il reste 20% quand même de choses qui ont été extraites des éditions. Voilà. Et d'ailleurs, un formidable article pour ouvrir ce bouquin de votre part, Gérard. Et je ne sais pas comment on peut consommer ce livre, parce qu'on prend une histoire au début, on en prend une à la fin, on ferme le livre, on le met dans la bibliothèque, on revient le lendemain, on va au milieu, et puis, au-delà de ces articles, il y a des photos, ce sont des pépites.
Vous êtes le ballon d'or des lecteurs.
Non, mais c'est... Vraiment bravo, parce que c'est...
Et on ne l'achète comme pas, quoi, croyez-moi.
Le président a une influence certaine.
Alors, quelques boussoles, vraiment, là. Parce que ce livre, vraiment, je recommande à tout le monde. Hein. J'en fais une publicité hantée, mais j'ai raison de le faire.
Non, vous faites de l'information.
Le 10 du Faubourg Montmartre.
Oui.
C'est une adresse mythique. Alors, dites-le pour les jeunes.
Voilà, oui. C'est l'histoire...
Comment, par exemple ?
C'est l'histoire d'une adresse. C'est l'histoire d'une adresse... d'hommes et femmes domiciliés à cette adresse où ils ont conçu, fabriqué un journal qui s'appelle L'Équipe de 1948 à 1987. L'Équipe, premier de sa classe. Quelle classe? Le journal de sport, que ce soit en France ou à l'international. Voilà grosso modo l'objet de l'ouvrage.
Et page 418, chapitre 13, Francis Del Terral, je le cite, l'équipe a accueilli dans ses murs du 10 Faubourg Montmartre tout ce que la planète du sport compte de champions.
Oui.
Ils sont tous là.
Oui.
Alors,
mais ils racontent surtout une histoire.
Dites-moi.
L'histoire de Pelé, non?
Dites-nous.
Voilà. Un jour de 1960, un jeune homme de taille moyenne, à la peau noire, arrive à l'équipe, au 10 Faubourg Montmartre. Il est 10h du matin. Il est reçu par un huissier qui s'appelle Dédé, auquel il dit qu'il apporte quelque chose à Jacques Ferrand, qui était un de nos grands anciens. Jacques Ferrand n'étant pas... À 10h du matin, il n'y a pas un journaliste qui est présent encore. Hein. On finit tard. On démarre un peu plus tard. Il l'installe dans le salon d'attente. Il l'oublie. Il oublie qu'il a accueilli un jeune homme de couleur noire, de petite taille, mais qui porte avec lui un petit paquet de café. Arrive vers 11h Henri Garcia, qui est rédacteur en chef.
Bien sûr.
Henri Garcia, des blabla. Et il voit ce jeune homme. Mais c'est Pelé. Et c'était Pelé. Et c'était Pelé qui a apporté un paquet de café à Jacques Ferrand, patron de la rue Football et de France Football.
Ça se passe en quelle année?
En 1960. Et Pelé avait 20 ans.
Et on voit Pelé d'ailleurs, il y a une photo Pelé magnifique, qui est en train de se promener également sur le trottoir
et Pelé reviendra à l'équipe à différentes reprises, et en particulier en 1981, quand il sera désigné athlète du siècle.
Et il y a génial le boxeur Sugar Ray Robinson qui arrive lui en limousine.
Avec sa limousine.
Il arrive en limousine au disque. Et c'est marrant d'ailleurs le disque au bon Montmartre, parce que le 10 c'est un numéro mythique pour les footballeurs.
Oui, mais c'était un numéro mythique pour les sportifs, ça l'était aussi pour le monde du spectacle. Pendant une dizaine d'années, mon cher Christian, il y a eu une émission qui n'était pas sponsorisée par RTL, mais par RMC, qui s'appelait le bar de l'équipe.
Ça arrive, hein?
Et qui néanmoins vous êtes devant, qui recevait tous les lundis des artistes, comédiens, chanteurs, c'est là-bas, Gainsbourg, Dutronc, Montand, Georges Guettari, vous connaissez?
Oui.
Rina Ketty, non?
Non.
Donc le sport et le journal de l'équipe étaient au cœur non seulement de l'intérêt.
Vous parliez de Max Urbini, vous pouvez vraiment partager cette conversation, les amis, parce que eux n'ont pas encore lu le livre. Max Urbini, qui a été une plume fantastique, disait, nous, même quand on ne travaillait pas, on arrivait, on venait à l'équipe, il n'y avait rien à faire, on ne travaillait pas, mais on aimait tellement ce quartier qu'on y allait 7 jours sur 7. C'est un message qu'on devrait passer parfois à certains jeunes journalistes qui ne nous font pas cadeau d'une RTT ou d'une journée de récupération.
Mais vous êtes délégué syndical.
Gérard, est-ce que le côté l'équipe à la fois journal de référence mondial, mais aussi membre d'un groupe qui organise des événements, a pas parfois faussé la manière dont on raconte ces événements, notamment le Tour de France ou même des Coupes d'Europe?
Excellente remarque. Mais il faut repartir 60 ans, 70 ans en arrière. Et comme pour d'autres sujets, on ne peut pas juger ce qui se passait 70 ans en arrière à l'aune d'aujourd'hui. Néanmoins, on peut estimer effectivement qu'il y a un principe de déontologie qui n'était pas totalement respecté, puisqu'on en est à la fois acteur et...
Créateur d'événements.
Acteur, créateur, commentateur d'événements. Et ce qui donne lieu d'ailleurs à des choses assez cocasses qui sont évoquées dans le livre, et comme vous me le demandez pas, je vais me permettre de vous le signaler.
Je vous en prie, vous êtes là pour ça.
Johnny Reeve, qui était pilote automobile avant d'être journaliste, il lui est arrivé de faire un Tour de France automobile avec deux paillets comme copilote. Et la journée, il était
au volant.
Il descendait de sa voiture, il enlevait sa combinaison. Il partait au centre de presse et il faisait son papier pour l'équipe.
Ah, mais il y a une chose extraordinaire que Gérard racontera, c'est le fameux édito de Gabriel Hanau. Ça c'est extraordinaire.
Gabriel Hanau, je pense que certes vos lecteurs sont très jeunes.
Gabriel Hanau, créateur de la Coupe d'Europe des clubs champions,
initiateur.
Il faut que les jeunes se rendent compte quand même que Gabriel Hanau a fait partie de cette équipe de journalistes qui a proposé de créer une compétition, la Coupe d'Europe des clubs champions 1956. 1954 ?
5.
Non.
Non, la proposition
est en 54. La première édition, c'est en
55-56.
La proposition est en 54.
D'accord.
54. Alors.
Ça, c'est formidable.
Qu'est-ce qu'on voulait dire sur Gabriel Hanau?
Un homme sans doute très fort, très inspiré.
Ce qu'il faut dire de Gabriel Hanau, à part son inspiration européenne, c'est qu'il a été sélectionneur de l'équipe de France. Et en même temps, il travaillait à l'équipe.
Oui,
et un jour,
les conflits d'intérêts.
Et un jour, l'équipe de France obtient un très 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 mauvais résultat sous la houlette de Gabriel Hanau. Eh bien, dans l'équipe du lendemain,
il s'est viré.
Et alors là, on en revient à la remarque de Gilles qui est complètement fondée. Mais je dis, c'était un autre temps quand même. Hein.
Bon, Gérard. Ernaud.
Oui.
Vous saviez pourquoi j'ai dit Gérard Hegnès deux fois
Mais j'ai pas envie de le savoir.
Je voudrais pas qu'on se quitte fâché. Parce que là, on a fait une belle publicité au bouquin. Mais
on fait pas de la publicité, c'est de l'information que vous faites, c'est pas de la publicité.
Mais vous avez oublié quelque chose.
Plein de choses.
Un épisode fâcheux qui fait partie de l'histoire de l'équipe.
Oui.
Vous me voyez venir?
Non.
1998.
Ah oui, mais là.
L'équipe est jaquée. La déchirure.
Non, mais là, c'est 1947.
C'est son anniversaire.
Oui, j'ai bien compris, mais il manque peut-être
Non, parce que l'équipe était à Issy-les-Moulineaux.
Mais j'ai bien compris. Mais ça reste l'équipe. L'équipe reste l'équipe. Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu y avoir une petite séquence.
Ce sera l'objet d'un autre livre, Christian.
On est dans le marketing. Donc, mais comprenez-moi. Une petite séquence sur ce qu'a été l'équipe et sur ce qu'a été l'équipe aussi, évidemment, puisque l'équipe n'est plus à Faubourg-Montmartre dans le 9e arrondissement et à Issy-les-Moulineaux.
Il y a déjà 400 pages et 500 documents. S'il avait fallu rajouter la période Issy-les-Moulineaux, ce serait plus un livre.
Difficultés pour un journal qui est numéro 1 dans le monde sur le plan du sport et de son traitement, l'équipe ne nous parle pas de ce genre d'épisode. Même si j'ai bien compris que ça s'est arrêté à un moment donné.
Alors, je vais vous dire, dans le cadre de l'association des anciens de l'équipe que j'ai l'honneur de présider, nous avons publié, il y a 6 ou 7 ans, un livre remarquable, que je vous ai donné, mais vous ne l'avez pas lu, voire vous l'auriez oublié, qui s'appelle « L'équipe raconte l'équipe ».
Je ne l'ai jamais reçu.
Bon, je vous l'envoie dès demain. Oui. Dans lequel l'épisode dont vous faites mention est évoqué sur 6 ou 7 pages.
Il fallait bien que je vous pose une question un peu poil à gratter. Je voudrais également, et on va en terminer là, Michel Jazzy a été typographe à l'équipe. Michel Jazzy, pour les plus jeunes, médaille d'argent aux Jeux de 60 à Rome, qui a été multiple champion d'Europe sur des distances qui allaient du 800 aux 5000 mètres. Michel Jazzy, qui a été consultant athlétisme de RTL. Je n'ai pas terminé. Henri Garcia, consultant rugby de RTL, avec Guy Kedia et c'est avec Jean-Michel Rascol qui suivait également le rugby. Henri Garcia, une plume extraordinaire, évidemment, à l'équipe.
Aussi bon à l'oral qu'à l'écrit.
Je n'ai pas fini. Jean Bobet. Années 70, le frère de Louison Bobet, lui-même ancien coureur, chef des sports de RTL.
Très, très grande plume.
Journaliste à l'équipe. Et il sait, c'est un salut amical s'il nous écoute et il sait pourquoi. Plus près de nous, je ne voudrais pas l'oublier, Noël Couedel, qui, dans les années 2000, RTL a pris la direction de la rédaction et a lancé toutes les émissions RTL Foot, Radio Foot, etc. Et a fait venir Eugène Saccomano. Voilà, je ne voulais pas les oublier.
Mais vous oubliez de dire Gérard Hernault, qui pendant un certain temps d'années, tous les mardis matins, faisait un petit papier pour RTL. Il y a une vingtaine d'années.
Oui, il y avait un partenariat avec RTL.
Oui, mais alors attendez, vous oubliez également de citer Patrick Lemoine. Il y avait Patrick Lemoine
avec Guy Kedia, Monsieur Mazerolle.
Et Radio Luxembourg, une plume également à l'époque, Jacques de Rieswijk.
Très, très grande plume.
Reporter fabuleux en radio et journaliste. Ouais. Voilà. Donc je les salue. J'ai plein de copains encore à l'équipe. Je ne les cite pas. Je les embrasse. Mais en tout cas, c'est remarquable. Vous méritez le Goncourt, Gérard, Hernault.
Au moins.
Le titre, le 10 Faubourg Montmartre. Aux éditions En Exergue. Le prix, c'est vraiment cadeau, 29,90 €. À propos de cadeau pour Noël, c'est vraiment le cadeau idéal.
Mais Christian, je ne sais que vous dire.
Bon, alors maintenant, et quelle heure est-il ? Les tirs au but, là Gérard, je ne vous mets pas dans la boucle, car ce sont des questions un peu polémiques. Il faut attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Et je change un peu le règlement désormais, parce que je vous ai entendu, j'étais absent sur ces deux dernières semaines, beaucoup trichent et n'attendent pas le coup de sifflet de l'arbitre.
J'ai les noms.
Oui, j'ai tout noté également, mais bon.
Très bien.
Mais simplement, donc, on ne prendra pas les points de ces deux dernières semaines. C'était des tournois un peu, vous savez, comme le tournoi de Paris à l'époque. C'était pas le championnat, il y avait le tournoi de Paris.
Ah, c'est bien, j'étais là quand même.
Mais en revanche, celui qui mord ou celle qui mord sur le coup de sifflet de l'arbitre.
Ça m'arrive.
Est éliminé.
Ah oui.
Spécial à 19h et bientôt 52 minutes. Spécial. Lyon-Marseille, match de dimanche soir, qui aura duré grosso modo 5 minutes, on est bien d'accord, après un jet de bouteille en direction de Dimitri Payet. Alors, et d'ailleurs, je précise que mercredi prochain, il y aura Lyon-Reims, que ce match se disputera à huis clos. En attendant, Philippe,
la semaine suivante, effectivement, ce sera 8 décembre, après instruction du dossier, les sanctions définitives.
Et je pense que ce sera la commission discipline. Je pense qu'il y aura du lourd. À ce propos, premier tir au but. Jean-Michel Aulas n'imagine pas que l'on ne rejoue pas le match. A-t-il tort ou a-t-il raison ?
Raison.
Cindy.
Pour moi, c'est dommage, ça tombe toujours sur Jean-Michel Aulas, ce genre de situation, parce que les choses auraient dû être réglées bien avant et par rapport au match contre Nice. Je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait, ce sont des sanctions individuelles et renforcer la protection. Je ne pense pas qu'il faut priver les supporters des matchs, parce que ce n'est pas leur faute. Donc moi, je pense qu'il a été dans son rôle, il a bien défendu son club. Je sais que je vais en contresens, parce que tout le monde veut s'en prendre à Jean-Michel Aulas. Je pense qu'il a raison.
Mais c'est de la folie, ça, excusez-moi, mais vous voulez faire rejouer un match où un joueur a pris une bouteille sur la tête, s'est effondré au sol, aurait pu être gravement blessé. Il faut donner match perdu, zéro point à Lyon, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, franchement.
Jean-Michel Aulas, ce qu'on attend de ce monsieur qui est justement décrit comme le plus grand dirigeant français des 30 dernières années, c'est un petit peu de hauteur de vue. Il ne faut pas oublier que Jean-Michel Aulas, il est aux côtés de Noël Le Graët à la Fédération depuis maintenant plusieurs années. Et on attend de lui, comme on attendait de lui pendant la crise sanitaire, qu'il se décroche un petit peu de sa situation personnelle et qu'il ne veuille pas simplement une revanche, parce que comme Nice a eu le droit de rejouer son match, et ben il faut que Lyon ait le droit de rejouer son match. On aimerait qu'il ait un petit peu de hauteur de vue et qu'il comprenne que là, il y a un moment où justement les sanctions doivent être suffisamment fortes pour que ça dissuade.
Non, mais il faut pas que ça rentre. Il faut qu'il y ait une cohérence dans les sanctions. À partir du moment où tu fais rejouer Nice OM, tu fais rejouer Lyon.
Donc on a fait n'importe quoi pendant 10 ans.
Mais sur une même. Après, éventuellement, tu prendras un nouveau règlement à partir de la saison prochaine.
Tu peux pas changer avec les yeux de la
honte. Tu peux pas changer en cours de saison les règles du jeu.
Il ne faut jamais oublier que le football, c'est aussi un petit peu de mauvaise foi. Et si vous aimez le football, il est dans son rôle. Et moi, je m'en tiens. Pour moi, c'est un excellent président de club.
Ça n'a rien à voir.
Thématique Lyon-Marseille, deuxième tir au but concernant donc cette actualité-là. Et là, il y aura du sous-texte et c'est un débat à tiroir. On a un peu de temps, on a encore 5 minutes. Donc, sur la question générique, il va falloir être perspicace, car ensuite il va falloir alimenter et venir avec des arguments. Lyon-Marseille, est-ce qu'on ne nous cacherait pas quelque chose?
Oui.
Cindy Colmenares.
Bah oui, dès les moments où on a commencé à donner plusieurs discours, donc entre les pouvoirs publics qui ne se mettent pas d'accord avec l'arbitre, qui ne se mettent pas d'accord au fait avec les présidents du club, éventuellement M. Aulas, oui, on sent que ça ne aide personne, ça n'aide surtout pas le football, qui est cette façon de se renvoyer la balle et qu'à la fin, on n'a pas les éléments. La situation, elle ne risque pas de s'améliorer de la sorte, de toute façon, ça n'est dans l'intérêt des personnes.
Très perspicace, car maintenant, il y a du sous-texte et des tiroirs, un débat à tiroirs.
Le coup de pression. Rien caché.
Bah, le coup de pression de la préfecture.
On a juste mis la lumière sur le fait qu'il y avait un processus de prise de décision qui était long et qui était tortueux et compliqué.
Coup de pression de la préfecture.
Mais c'est pas coup de pression de la préfecture. Alors, il me paraît normal et logique que ça engage
très bien
la préfecture, les autorités publiques et que l'arbitre ne soit pas seul à décider, mais qu'il soit éclairé aussi par les autorités
pourquoi
publiques.
Pourquoi c'est annoncé? Pourquoi on annonce que les matchs continuent? Voilà, c'est ce qu'il dit.
Alors ça, c'est autre chose.
Excel ou pas?
C'est inadmissible.
Non,
c'est inadmissible.
Là, en fait, ce qui se passe, c'est que
Le speaker annonce la reprise du match.
Oui, parce que l'arbitre, au départ, a un sentiment. Son sentiment, c'est que sportivement, le fait que le meilleur joueur de l'équipe adverse soit touché et ne revienne pas sur la pelouse, on ne peut pas continuer cette rencontre.
Effectivement.
Ensuite, il y a discussion avec les autorités. Et là, ce qui est souvent le cas dans ce genre de problème, c'est que le préfet a tendance à vouloir faire jouer le match pour qu'il n'y ait pas de soucis à l'extérieur du stade. Donc, dans ce temps-là, l'arbitre revoit un peu son jugement avant de donner sa décision finale. Et là, le club de Lyon et Jean-Michel Aulas s'engouffrent dans cette brèche pour demander aux joueurs de retourner sur le terrain. Alors, et pour demander au speaker d'annoncer la reprise de
pression de la préfecture, pression de l'Olympique lyonnais. Mais attendez,
chacun joue sa
pression de l'Olympique de Marseille. Jamais dans le cerveau d'un des joueurs ou dirigeants de l'Olympique de Marseille, il n'a été question de reprendre la rencontre.
Non, mais ça, c'est différent. Si vous signifiez que chacun joue sa partition, moi je suis d'accord avec Philippe, chacun joue sa partition avec mauvaise foi pour tenter d'influer. Mais là où c'est absurde, c'est que si vous pouvez mettre de la pression, c'est parce que le texte au départ est ubuesque. Personne ne sait réellement qui doit prendre la décision, puisque vous avez un arbitre
qui panique.
Vous avez le préfet de région qui lui dit « Je vous en supplie, on risque un drame, qu'est-ce qu'il va faire l'arbitre ?» Il va appeler, il va téléphoner. Donc, s'il y a quand même dans la cour, après, il y a une réunion avec le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, tous les présidents, la ministre des Sports, c'est pas pour rien, parce que le règlement est débile.
Je vais vous donner une petite indiscrétion, mais enfin, c'est pas une information exclusive mondiale, etc. C'est que, dès le départ, j'ai passé quelques coups de fil. Dès le départ, l'arbitre avait l'intention d'arrêter et qu'ensuite, il n'a eu de cesse d'être pris pour un punching ball.
Pour un bouc émissaire.
Mais le problème, c'est que sur les terrains
des Ligue 1, on plaint l'arbitre pour les boucs émissaires. Pour moi, Gilles, je suis tout à fait d'accord avec les faits et avec la préfecture, d'ailleurs, qui aurait pu avoir un drame dehors. Dans ces cas-là, ne refaites pas, n'envoyez pas un speaker dire que les matchs reprennent. Faites jouer la montre. Attendez, comme on a attendu pendant plusieurs heures, et heureusement qu'on a attendu plusieurs heures, parce que sinon, il y aurait pu avoir des débordements. Et voilà.
Est-ce qu'à partir d'un certain niveau de gravité, comme ça a été le cas, il faut que la décision ne soit plus prise par l'arbitre? L'arbitre, il est là sur le terrain pour gérer 22 joueurs. Quand on commence à lui demander d'intervenir pour gérer les problèmes en tribune, c'est plus son registre. Donc il y a peut-être un moment où il va falloir que les pouvoirs publics et la Ligue de football trouvent que ils vont le faire, il faut l'espérer, un vrai responsable qui prend la décision à partir du moment où les incidents échappotés.
Passe décisive de Xavier Barré. Le football français est en état d'urgence, proposition dans 15 jours, c'est ce qu'annonce Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Croyez-vous aux réponses ou aux mesures concrètes?
Non.
Philippe Sanfourche.
Non, manifestement, c'est conjoncturel. C'est-à-dire, par rapport à une situation de crise, il fallait réagir. Donc, tout le monde s'est vu pendant une petite heure, mais sous le coup de l'émotion et pour donner une réponse immédiate en termes de communication. Maintenant, les positions, elles sont tranchées de chaque côté. C'est-à-dire que la Ligue et les clubs sont persuadés que les autorités publiques ne font pas ce qu'il faut. Et à l'inverse, la ministre et les autorités publiques sont persuadés que le football a suffisamment de moyens et l'arsenal juridique à sa disposition pour avancer. Pour l'instant, il n'y a pas d'arbitre pour trancher.
Tir au but, deux tirs au but remportés par Cindy Colmenares, un tir au but par Philippe Sanfourche, Xavier Barré, Gilles Verdez, va falloir bosser.
Absolument, les faibles étaient là, ils ont perdu.
Merci beaucoup Gérard Arnaud de votre participation, vraiment. Merci.
C'est moi qui vous remercie infiniment.
Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Gérard, sur l'antenne de RTL, vous le savez, vous serez toujours le bienvenu. Merci à Cindy Colmenares, nous sommes encore à l'antenne Cindy, merci à Gilles Verdez, merci à Xavier Barré et à Philippe Sanfourche. 20h, RTL Foot, bien sûr, l'intégralité du match qui m'échappe, il s'agit de Nice-Metz, en vous rappelant cet après-midi, il y a eu un but partout entre Lille et Nantes. Il y aura plein d'infos, plein de commentaires, plein de bonnes choses en compagnie d'Eric Silvestro, de Giovanni Castaldi et de Baptiste Durieux. Très bonne soirée à l'écoute de RTL.